Vous écoutez
RMC.
Vous êtes bien sur RMC, il est 7h.
RMC, Apolline Matin.
Le journal avec Rachel Saad. Odine, bonjour Rachel.
Bonjour Charles, bonjour à tous. Un chauffard activement recherché dans les Vosges, il est soupçonné d'avoir percuté intentionnellement deux gendarmes. Le plan grand froid déclenché dans une vingtaine de départements du nord du pays. Un SDF est décédé dans la nuit du réveillon à Reims. Plus de 390 000 annonces déjà en ligne hier à midi. À peine Noël passé, les Français s'empressent de revendre leurs cadeaux et ça choque de moins en moins.
Deux gendarmes percutés par un chauffard dans les Vosges.
L'homme est toujours en fuite ce matin, hier après-midi, à Chavelot, au nord d'Épinal. Il blesse deux militaires dans un refus d'obtempérer. Et Célestin Bougère, le chauffard semble donc avoir agi intentionnellement.
Et oui, les deux gendarmes de la brigade motorisée de Rémy Raymond voulaient contrôler une voiture hier vers 16h30 sur la RN57. Le conducteur a d'abord fait mine de s'arrêter. Un premier gendarme a été percuté lorsque le véhicule a fait une marche arrière. D'après une source proche de l'enquête, le conducteur a ensuite fait demi-tour pour venir heurter le deuxième motard avant de prendre la fuite. Un acte délibéré pour blesser les gendarmes, selon Axel Ronde, porte-parole du syndicat CFTC Police.
On voit bien que l'individu a dû s'arrêter et a attendu que les motards descendent de leur moto pour leur foncer carrément dedans et prendre la fuite. Donc on voit que vous avez affaire à des individus qui n'ont absolument plus peur de rien et qui mettent, encore une fois, la vie en danger des policiers et des usagers.
Les deux gendarmes blessés ont été pris en charge mais pour des soins, mais leur pronostic vital n'est pas engagé. Leur état n'inspire pas d'inquiétude, a voulu rassurer le ministre de l'Intérieur sur X hier soir. Laurent Nunez dit condamner fermement cet acte grave qui met volontairement en danger la vie de ceux qui nous protègent. Tout est mis en œuvre, précise le ministre, pour retrouver le conducteur toujours en fuite ce matin.
Le plan grand froid déclenché dans près de 20 départements du pays, du Grand Est à la Normandie, ainsi que dans les Hauts-de-France, partout où les températures sont négatives, il s'agit d'augmenter le nombre de places d'hébergement pour SDF, de doubler les maraudes, de garantir un accueil de jour pour tous. Tout pour éviter des drames comme celui qui a eu lieu à Reims. Un sans domicile fixe de 35 ans est mort dans la nuit de mercredi à jeudi. Une enquête a été ouverte, mais selon le parquet de Reims, le froid est bel et bien en cause. Une disparition choquante pour la fondatrice de la maraude citoyenne rémoise, Zahia Nouri, connaissait bien le disparu.
La tristesse, la colère, l'incompréhension. Est-ce qu'il a trop bu, il s'est endormi, il s'est pas réveillé? Je pense que le froid l'a achevé. Parce que le vent était glacial. Je pense qu'au niveau du ressenti, on devait avoir au moins du moins 5. Rester figé comme ça au sol, 24 décembre, tout seul. Il faut être costaud pour le supporter en restant dehors. Personne ne peut supporter ça. Et puis voilà, il n'a pas vu le froid arriver.
L'espoir de voir Laurent Vinatier libéré renaît après une annonce de la Russie. Hier, Moscou a dit avoir fait une proposition à la France concernant ce chercheur emprisonné depuis un an et demi. Emmanuel Macron s'est dit pleinement mobilisé pour sa libération. Accusé d'espionnage, Laurent Vinatier a été condamné à 3 ans de prison en octobre 2024.
Près de 85 000 euros, c'est la somme que doivent payer deux viticulteurs qui ont pourtant été victimes d'un vol.
Oui Charles, ces deux frères installés en Charente-Maritime se sont fait voler une partie de leur production d'eau de vie l'an dernier et ils ont eu la mauvaise surprise de découvrir qu'ils devaient en plus s'acquitter d'une coquette somme donc auprès des douanes, une situation qu'ils dénoncent Pierre Bourgès.
Nous sommes début janvier 2025. Anthony et Dimitri Baratange découvrent que 5000 litres de leur eau de vie ont été volés. Ils appellent alors la gendarmerie. Les douanes sont aussi passées faire l'inventaire.
Et lorsqu'ils sont venus faire l'inventaire, ils nous ont précisé que nous serions taxables des droits d'accise sur les volumes manquants.
Ces droits d'accise, une taxe sur la consommation de certains produits, sont à payer par les grandes maisons qui vendent les bouteilles, pas par le producteur, sauf en cas de vol. Un mois plus tard, les deux frères reçoivent le montant à payer.
Ça a été la douche froide, hein, oui. 84 613 euros. La seule solution, c'était soit obtenir un échéancier, soit il fallait qu'on passe en procédure de sauvegarde.
Cette somme double presque le montant du préjudice qu'ils ont subi.
Très compliqué psychologiquement.
Mais des sommes comme ça, c'est nous mettre la corde au cou. Faut arriver à y penser, ça c'est sûr.
Vous y avez pensé?
Bien sûr. Quand vous voyez aucune porte de sortie, heureusement vous êtes entouré par la famille, les amis.
Aujourd'hui, les syndicats de la profession appellent à trouver une solution face à cette situation que les producteurs trouvent absurde.
Les douanes au niveau national viennent nous imposer sur un vol dont on a été victime. On se sent doublement pénalisé, quoi. Si rien ne change, il va y avoir des drames humains, c'est sûr.
En attendant, les deux associés ne se versent presque plus de salaire pour rembourser cette taxe.
Après avoir passé Noël sur leur barrage, les agriculteurs restent mobilisés dans le sud-ouest, notamment sur l'A64 à Carbonne, en Haute-Garonne. Mais d'autres points de blocage ont en revanche été levés. La préfecture des Pyrénées-Atlantiques annonce une réouverture d'un tronçon entre le péage de Peyrorade et la jonction de l'A65 à l'ouest de Pau. La situation quasi rétablie, ça y est, à la poste. Quelques dysfonctionnements subsistent, mais selon le groupe, les services en ligne et le suivi, la distribution des courriers, des colis, eh bien, elle a repris, perturbée depuis lundi à cause d'une cyberattaque revendiquée par des hackers pro-russes.
Oui, peut-être que certains ne recevront que leurs cadeaux aujourd'hui, un peu en décalé pour Noël, mais d'autres sont déjà en train de revendre les leurs.
Oui, plus de 390 000 annonces même ont déjà été mises en ligne. Ça, c'était seulement hier à midi. Il y en a peut-être même plus ce matin sur la plateforme Rakuten. Une pratique presque plus taboue pour certains Français, Anna Jojard.
Parmi les annonces postées hier, le casque audio encore emballé de Chloé, le modèle ne lui convient pas.
Je vais récupérer la somme liée à la revente dans une optique finalement d'acheter un casque de qualité supérieure avec un son supérieur.
Au-delà de l'argument financier, elle avance aussi l'intérêt écologique d'une telle démarche.
Plutôt que de le garder et que ça soit non utilisé, autant qu'il serve. Enfin vraiment, toujours dans cette démarche de non gaspillage de l'objet, d'autant plus les appareils électroniques qui sont parfois surconsommés.
Seulement quelques heures après avoir découvert sa nouvelle paire de baskets qu'il avait pourtant commandé à ses parents pour Noël, Elliot l'a mise en vente sur Internet.
Et je m'étais trompé dans la pointure que je voulais commander et vu qu'on avait pris les cadeaux un peu en avance, le retour n'est pas possible. Du coup, je suis obligé de le revendre sur Internet. C'est la première fois que ça m'arrive.
Mais avant de vendre son cadeau, il a quand même prévenu ses parents qui ont très bien compris.
Ça posait pas de problème. Non, c'était plutôt une déception de leur part aussi de s'être trompé sur la taille.
Une pratique qui semble effectivement de plus en plus acceptée socialement. 7 Français sur 10 affirment qu'ils réagiraient de manière positive ou neutre si un proche revendait un cadeau qu'ils ont offert.
Ah bah tiens, racontez-nous, est-ce que ça vous arrive de revendre? Est-ce que vous le faites là en ce Noël? Déjà de revendre les cadeaux qu'on vient de vous offrir, est-ce que ça vous choque qu'on revende vos cadeaux aussi lorsque vous offrez quelque chose? Rachel Saadodine,
ça vous
arrive de revendre?
J'ai un joker quand on reçoit deux fois la même chose. Deux fois le même bouquin, par exemple. Bon,
ça se justifie. Ensuite, il y a des questions de goût. Est-ce qu'il faut le dire? Tiens, j'ai reçu un cadeau. Est-ce que j'annonce à la personne qui me l'a offert que je vais le revendre? Ça aussi, c'est un vrai débat.
Elle peut s'en rendre compte quand même.
Oui, c'est vrai. Elle risque de tomber dessus en ligne aussi. Vous venez nous le dire au 32-16. On débat tous ensemble. Il y a aussi le WhatsApp, évidemment, d'RMC 0612-424-424.
Lui a offert un beau cadeau de Noël à ses fans. Le basketteur français Victor Wembanyama a mené les San Antonio Spurs vers la victoire hier soir à Oklahoma City. C'était le match de Noël. Un rendez-vous incontournable pour les fans de NBA, et ça depuis près de 80 ans, David Alias.
Efficace et précieux en défense, Victor Wembanyama a offert un tout dernier cadeau à ses fans au pied du sapin, en contribuant largement au succès des siens, 117-102, sur le parquet d'un Oklahoma City particulièrement maladroit. 19 points, 11 rebonds, 2 passes et 1 contre pour le Frenchie. Et pourtant, Wemby avait encore une fois débuté sur le banc face au Thunder, comme mardi soir, ce qui n'avait pas empêché les Spurs de s'imposer 130-110 contre le même Oklahoma, avec 12 points du français. Grâce à ce nouveau succès sur OKC, le troisième en l'espace de 2 semaines, San Antonio enchaîne une 5e victoire de rang et aura à cœur de terminer l'année 2025 en patron de la conférence Ouest avec les réceptions du Utah Jazz et de Cleveland ce dimanche et mardi prochain.
David Alias pour RMC.
C'était le journal de Rachel Saadodine à 7h08 sur RMC. On vous retrouve à 8h30.
À tout à l'heure,
Rachel. Pour un prochain journal. Rachel, qui fait partie des courageux, qui bosse en ce 26 décembre, en ce lendemain de Noël. Racontez-nous, vous. Tiens, j'aimerais savoir qui est là ce matin, qui nous écoute, qui nous regarde à la télé. Est-ce que vous êtes réveillé tranquille à la maison? Peut-être on récupère au lendemain des fêtes de Noël. Est-ce que vous êtes au boulot? Peut-être qui bosse en ce 26 décembre? Vous le savez, vous avez la priorité au 32-16. Vous n'hésitez pas à venir témoigner en direct sur RMC. Il est 7h09.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et pour savoir qui est réveillé ce matin, un bon baromètre, c'est le WhatsApp d'RMC et Victor qui surveille tous vos messages.
Et d'abord, vos réactions sur cette baisse des fréquentations dans les cinémas. On a Kevin qui vient nous poser une question sur l'IPTV. Vous savez, c'est cette solution de streaming illégale, on le rappelle, pour avoir accès à des chaînes du monde entier. Il nous dit, je sais que c'est néfaste pour le football, pour les matchs diffusés à la télé, mais est-ce que ça ne pourrait pas être une explication explication pour cette baisse de fréquentation des cinémas, parce qu'il nous dit que des films sont aussi disponibles sur cette solution. On a Émilie qui est un bon exemple de ce qui se passe dans la fréquentation des cinémas, puisqu'elle nous dit moi j'y suis allé que deux fois, c'est pour deux blockbusters, Avatar et Le Comte de Monte Cristo. Est-ce que ça suffit pour faire vivre les cinémas? Et puis un mot des cadeaux de Noël qui sont directement revendus sur les sites en ce 26 décembre. On a Vincent qui nous dit mon cadeau de Noël ne sera pas sur un site de revente, certes, mais il repart direction Le Commerçant. C'est une télé, elle est trop petite, il n'en veut pas.
Ah d'accord, non, pas faux, l'annoncer à celui ou celle qui lui a offert cette télé. En attendant, oui, on parlait de la fréquentation des cinémas. 30 millions de spectateurs en moins cette année, le cinéma en souffrance. On va en parler dans un instant avec Éric Marty. Bonjour.
Oui, bonjour.
Spécialiste de la mesure, de la fréquentation du box-office. Pourquoi les Français ont boudé les salles cette année? Est-ce que vous êtes confiant pour 2026? Vous allez tout nous dire dans un instant sur RMC.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Charles Magnin.
7h12, bon réveil à tous. Vous êtes bien sur RMC. Et on part tout de suite au cinéma, vous l'entendez, même si l'ambiance a été assez morose dans les salles de ciné cette année, il manque 25-30 millions de billets par rapport à 2024, les salles de cinéma en souffrance. Nous sommes en ligne avec Éric Marty, rebonjour.
Bonjour.
Président, directeur général de Comscore France, entreprise spécialisée dans la mesure de la fréquentation des cinémas. Et bien tout simplement, Éric Marty, où sont ces spectateurs-là, ces 30 millions de billets en moins, pourquoi y a-t-il eu moins de Français dans les salles de cinéma cette année?
Alors, il y a deux manières de prendre cette question. Il y a une manière extrêmement simple et arithmétique. C'est 25 millions qui va manquer à la fin de l'année. On est à 151 millions à peu près d'entrées aujourd'hui. On va finir à 157. L'an dernier, il y en avait 25 de plus. Hein. Oui. Et donc, 182. On peut dire aussi qu'à la même date, l'année dernière, il y avait trois films français qui avaient fait 25 millions d'entrées à eux trois. Le Comte de Monte Cristo, un petit truc en plus, 11 millions, et puis L'Amour Ouf. Cette année, le premier succès français, il a fait 3 millions d'entrées. Donc là, la réponse la plus simple, c'est de dire qu'il n'y a pas eu les grands succès français. Et c'est vrai que ça a pêché de ce côté-là. Et puis, il y a également une autre remarque, c'est qu'il y a eu là, actuellement, on a deux très gros succès américains qui sont Zootopie et puis Avatar. Mmh. Mais ils ont un peu tardé, puisque jusqu'à aujourd'hui, le plus gros succès de l'année, c'était... jusqu'à la semaine dernière, le plus gros succès de l'année, c'était Lilo & Stitch, qui est sorti en juin. Et il n'avait fait que, si je puis dire, 5 millions d'entrées. Vice-versa, l'an dernier, était sorti à la même époque, il était à 8 millions d'entrées. Donc vous voyez, les grosses machines américaines, certaines ont fonctionné, mais pas nécessairement autant qu'on aurait pu le penser.
Voilà. C'est tout le paradoxe, là. Éric Marty, là, ce matin, on est en train de faire un bilan assez négatif de l'année, alors que c'est en ce moment, si j'ai bien compris, que les Français sont dans les salles, parce que Zootopie 2, parce que Avatar 3, en ce moment, il y a du monde ces derniers jours dans les salles, il va y en avoir jusqu'à la fin de l'année, mais ça ne suffira pas pour compenser une année terne. En fait, c'est le cinéma français qui n'était pas au rendez-vous, si je comprends bien.
Disons que c'est une année terne, comme vous l'avez dit. C'est pas une année catastrophique, c'est pas une bonne année, mais il y a eu des très beaux succès. Et même du côté du cinéma français, quand je vois 700 000 entrées pour L'Étranger, pour un film comme Sirate, qui était une vraie surprise, 900 000 entrées il y a très peu de temps pour La femme la plus riche du monde, 1,5 million pour le Dubosc en début d'année sur Un ours dans le Jura, ou pour Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, ce sont pas des résultats négligeables, ce sont des bons résultats. Mais c'est vrai qu'il a manqué, vous savez, quand on a deux films là actuellement comme Avatar et Zootopie qui vraiment remplissent les salles, et bien ça crée un mouvement vers les salles de cinéma et les autres films en profitent. Et l'an dernier, les locomotives sont arrivées dès le 1er mai avec un petit truc en plus. Et d'ailleurs, on était à peu près au même niveau que 2024 jusqu'au mois d'avril. Et puis ensuite, on a un peu décroché parce qu'il a manqué ces locomotives du printemps et de l'été qu'on a eu l'an dernier.
Oui, mais donc c'est bien la preuve que quand il y a des bons films, des grands succès, ensuite ça rejaillit sur tous les autres. Les Français sont prêts à aller au cinéma parce que souvent on pointe la question du prix. On dit les Français, et souvent quand on pose nous la question à nos auditeurs, ils disent non, moi j'y vais plus, ça coûte trop cher. Mais l'année 2024 montre au contraire que quand les films sont là, les Français sont prêts à aller au cinéma.
Alors, la question du prix, j'ai quelques années d'expérience, on l'a dit tout le temps. Donc, au bout d'un moment, or, c'est vrai, comme vous le dites, dès que les films sont là, les Français y vont, il y a un appétit pour le cinéma. Et le grand paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, quand on a des films spectaculaires, il faut le dire, comme Avatar, les premières salles qui se remplissent, les premières places qui partent, sont les places dites premium, c'est-à-dire les plus chères. Par ailleurs, le cinéma a inventé il y a 30 ans une formule illimitée qu'on a pratiquement dans tous les cinémas de France et qui fait qu'on a des abonnements et qui baisse énormément le prix puisqu'il fait plus on y va, et ben moins c'est cher. Non, je pense qu'ce qui est important, c'est qu'il y a toujours cet appétit de cinéma. Il est là, on l'a vu à plusieurs reprises, mais on n'a pas eu effectivement le moteur qui faisait les films moteurs qui faisait que tout le monde en parlait positivement.
Et est-ce qu'il y a trop de films, Éric Marty ? On entend aussi parfois cette petite musique de on subventionne notamment trop de films, il y a une offre trop large, ça part dans tous les sens, et les Français s'y perdent. Il y a moins l'événement d'une sortie, les Américains le font encore, mais est-ce qu'en France on a perdu ce sens de l'événement d'une sortie cinéma ?
Alors, au niveau des professionnels, des distributeurs de films, non, ils essayent tous d'insister sur le côté événementiel. Simplement, c'est pas facile de créer l'événement et on sait jamais autour duquel ça va passer parce que qui aurait pu attendre en fin d'année dernière le succès phénoménal de Enfant Phare ou de Vin Dieu, qui étaient des films qui étaient pas nécessairement programmé pour faire l'événement, mais on savait qu'il avait de la qualité. Et puis le public, on a fait la réussite, comme Sirat dont je parlais tout à l'heure, où là le public s'est vraiment mobilisé et on a vu le public aller vers ce film.
Oui, mais il y a aussi beaucoup d'échecs cette année. Alors, je vais vous poser la question différemment, Éric Marty. Je vous ai demandé est-ce qu'il y a trop de films, est-ce qu'il y a trop de mauvais films qui sortent.
Alors ça, personne ne peut le dire au départ. C'est tout le paradoxe du cinéma, c'est que chaque film en soi est un peu un prototype et qu'il faut qu'il y en ait beaucoup pour qu'il y en ait quelques-uns qui réussissent vraiment. La question du beaucoup, pas beaucoup, c'est vraiment une question autour de laquelle on peut tourner pendant des heures. Mais on sait qu'il faut faire des films qu'on n'attend pas pour qu'on soit surpris et positivement. Mais ça veut dire aussi qu'on peut se rater.
Oui, voilà. C'est toujours un pari, en tout cas, de produire, d'écrire, de sortir un film. On va accueillir Ayman au 32-16. On est du côté de Lyon, Rieux-la-Pape avec vous, Ayman. Bonjour.
Oui, bonjour à tous.
Conducteur de bus, père de famille, est-ce que vous allez régulièrement au cinéma encore ?
Ce que je disais, à l'époque, moi, j'avais les cartes abonnement pâté avec ma femme, ma conjointe. Et depuis que j'ai les enfants et depuis que les places sont passées à plus de 12 euros maintenant, elle est à 16 euros. Franchement, chaque sortie est comptée. Hein. Vous avez vite fait de laisser 50, 60 euros avec pop-corn et tout. Donc maintenant, nous y allons une fois tous les trimestres quand il y a un gros film qui sort ou quelque chose. Et je vous entendais parler de beaucoup de films qui sortent. Et c'est vrai que quand vous regardez l'affiche, il n'y a plus de films attirants comme à l'époque.
Oui, il y a peut-être moins cette idée de ce film qu'on attend depuis des mois. Alors si, Avatar, il y a des fans qui l'attendent depuis des mois, évidemment, mais voilà, peut-être qu'en France, il y a moins ces grandes comédies, ces grands films, ces grands moments où on se réunit tous au cinéma, où toute la France vibre autour d'un même film. Mais c'est intéressant, Emmanuel, oui, vous le dites, quand vous étiez en couple avec la formule illimitée, etc., vous y alliez régulièrement. Aujourd'hui, en famille, c'est tout de suite un billet de 50 euros. Je vais revenir vers Éric Marty. La question du prix joue quand même, Éric Marty, quand on entend le témoignage d'Eman, c'est qu'en famille, c'est devenu un peu plus compliqué le cinéma.
Indéniablement, la question du prix, elle joue. C'est un des éléments. L'autre élément, c'est l'attirance et l'affiche. Vous dites de se rassembler. L'an dernier, il y a eu deux films français où effectivement tout le monde s'est rassemblé. Un qu'on pouvait attendre parce qu'il était événementiel, Le Comte de Monte Cristo. L'autre, un petit truc en plus, que honnêtement, personne n'attendait au départ. Et puis qui a fait que tout le monde s'est retrouvé autour de ce film à passer un bon moment. Et puis la question du prix. Alors là, la chance qu'on a, c'est que on a énormément de salles de cinéma en France qui sont ouvertes avec des tarifications très différentes. Alors c'est certain qu'on est peut-être plus à même de dépenser un 15 euros pour un film très spectaculaire qu'on va voir dans une salle premium et on va en prendre plein les mirettes, excusez-moi l'expression. Et puis d'autres films plus confidentiels. La place de cinéma reste à un tarif moyen de 7,50 euros en France, ce qui signifie bien que toutes les places ne sont pas à 15 euros. Mais j'entends bien ce que dit Iman.
Oui, mais 7,50 euros, c'est en prenant en compte les offres des CE, etc., les comités d'entreprise, ça fait baisser le prix des places. J'ai une dernière question pour vous, Éric Marty. Là, il y a aussi comment dire, un acteur qu'on n'a pas cité pour l'instant, ce sont les plateformes, les Netflix, les Prime Video, etc. On a beaucoup annoncé la mort du cinéma. Finalement, c'est quoi? C'est des concurrents, des partenaires du cinéma, parce qu'ils cofinancent aussi des films.
Oui, ils cofinancent des films. On a beaucoup annoncé, ils ont beaucoup annoncé la mort du cinéma. J'ai peut-être fait une petite différence entre deux notions, je vais dire en anglais, c'est le home entertainment, c'est ce qu'ils proposent, c'est du divertissement à la maison avec tout ce qu'on a comme divertissement, et puis le entertainment tout court où on sort pour passer un moment et pour voir quelque chose d'exceptionnel. On a aussi beaucoup investi dans le cinéma, dans les cinémas depuis quelques années. Et alors, effectivement, pour certains, les places sont devenues plus chères pour certains cinémas, pas pour d'autres. Mais c'est vrai que les cinémas proposent toujours un divertissement qu'on n'a pas à la maison par la qualité de l'accueil, de la qualité de la projection et on espère la qualité du spectacle.
Voilà. Mais ça reste un événement d'aller au cinéma. Merci Éric Marty, spécialiste de la mesure de la fréquentation et du box-office pour Comscore d'avoir été en direct avec nous ce matin sur RMC pour décrypter cette année, allez on va le dire en berne pour ne pas dire catastrophique pour les salles de cinéma en France cette année. On va remercier Ayman aussi d'être venu témoigner au 32-16. Vous aussi racontez-nous, tiens, est-ce que vous êtes allé au cinéma cette année et sinon pourquoi? Est-ce que vous y allez moins qu'avant? Qu'est-ce qui vous freine? Est-ce que c'est uniquement la question du prix? Est-ce que c'est l'affiche? On continue à en débattre tous ensemble au 32-16 sur RMC. Et puis dans un instant, on va retrouver Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin, qui va nous rappeler qu'en politique, rien n'est jamais perdu. C'est dans un instant. Et puis je vous attends aussi au 32-16 pour parler de la revente des cadeaux. La pratique s'est visiblement totalement démocratisée. Est-ce que ça vous choque qu'on revende dès le lendemain ces cadeaux de Noël? N'hésitez pas, on attend vos appels au standard et on se retrouve dans moins de 60 secondes sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
7h24 sur RMC et RMC Story, quand l'histoire éclaire notre actualité. C'est tous les jours avec Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin, qui nous raconte aujourd'hui la longue histoire des revenants en politique.
Arthur, l'ancien Premier ministre Michel Barnier est arrivé en tête de la législative partielle à Paris. Pour vous, une élection, eh bien, ça prouve qu'en politique, rien n'est jamais perdu.
Oui, à ma droite, Michel Barnier, député pour la première fois il y a 47 ans. À ma gauche, Frédéric Bredin, député pour la première fois il y a 37 ans. C'est plus une élection, Apolline, c'est un combat de dinosaures. Car oui, en France, les politiques ne meurent jamais.
C'est très français pour vous, ça.
Bien sûr. Et si personne ne s'avoue jamais vaincu, c'est parce qu'un homme a prouvé que tout était possible. Cet homme, comme d'habitude, c'est le général de Gaulle.
On y revient toujours,
voilà,
Napoléon.
Après la Seconde Guerre mondiale, il devient président du gouvernement provisoire. Et contre toute attente, il claque la porte en 1946. Et alors là, c'est le début d'une traversée du désert. Reclus chez lui, en Haute-Marne, de Gaulle attend son heure. Et ça sera long, 12 ans. 12 ans plus tard, la guerre d'Algérie éclate, c'est la crise. De Gaulle revient et en 1959, il est élu président de la République. Il a alors 69 ans.
Il a montré que c'était possible de revenir à n'importe quel âge.
Exactement, mais attention parce que ça ne marche pas à tous les coups. Hein. N'est pas de Gaulle qui veut. Giscard d'Estaing s'en souvient. En 1974, c'est le plus jeune président de la 5e République. Il a 48 ans, brillant, plein d'énergie. Il dépoussière la France. Mais 7 ans plus tard, il perd contre François Mitterrand et Giscard va passer sa vie à essayer de revenir. Hein. Et alors, il nous a tout fait, Giscard. Hein. Une retraite dans un monastère en Grèce, il a été se faire élire député en Auvergne. Tout pour montrer que oui, il avait changé, mais rien n'a jamais marché.
J'imagine qu'à gauche, on a des cas similaires.
Un cas qui s'appelle Lionel Jospin. En 2002, il ne passe même pas le premier tour de l'élection présidentielle. Le soir même, il déclare qu'il se retire de la vie politique, classique. Mais apparemment, c'était pour rire, hein, puisque en 2007, à 70 ans, il change d'avis. Un an avant la présidentielle, il se déclare, je cite, « capable d'assumer la charge de chef de l'État ». Bah voyons. Mais les sondages étaient trop mauvais, donc ça aussi, ça ne se produira pas.
J'avais même oublié qu'il avait envie de
le dire. Il l'a dit.
Vous, Arthur, heureusement que vous êtes là pour nous remonter le temps. Et donc, depuis De Gaulle, ça marche quand même moyennement.
Oui, et parfois, ça marche un peu, mais pas suffisamment. Hein. C'est le cas d'Alain Juppé.
Alain Juppé, bien sûr.
En 2004, il est condamné à de la prison avec sursis. Donc là, il s'exile au Canada. Ce sont les adieux, mais il revient. Il revient et ça marche. Il redevient ministre de Sarkozy. Sa popularité explose. Il caracole en tête des sondages pour la présidentielle de 2017. Juppé nous fait une remontada à 71 ans, plus rien ne l'arrête finalement. Il ne passera même pas le cap de la primaire hein, puisqu'il se fera coiffer au poteau par François Fillon.
Et vous pensez qu'on pourrait avoir un président d'un certain âge?
Eh bien pourquoi pas, Apolline. Emmanuel Macron a rajeuni la classe politique de façon fulgurante. Regardez nos deux derniers premiers ministres, Michel Barnier et François Bayrou, avaient quand même tous les deux 74 ans, donc l'âge n'est la preuve de rien. Gardons en tête que Winston Churchill a gagné la Deuxième Guerre mondiale à 71 ans.
Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin, qu'on retrouve à tout moment aussi en podcast, évidemment, sur l'appli RMC. Il est 7h27. Dans un instant, la météo, le journal de 7h30. Et juste après le journal, on va passer un coup de fil à une maraîchère de l'Hérault qui a tout perdu à cause des inondations il y a quelques jours. Elle lance ce matin un appel à l'aide sur RMC. C'est à 7h40. Et ensuite, l'invité d'Apolline Matin, ce sera la directrice des relations clients chez Rakuten France. Quasiment 400 000 annonces sur ce site de revente, rien que pour hier. Aussitôt offert, déjà revendu. On ne perd plus de temps, on revend ses cadeaux de Noël quasi immédiatement. Est-ce que ça vous choque? En tout cas, on va décrypter le phénomène à 7h40. Vous continuez à témoigner en direct sur RMC, vous connaissez le chemin, c'est le 3216 et puis le WhatsApp de l'émission 0612 424 424. 7h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Votre journal, toute l'info en direct avec Élise Dangean. Bonjour Élise.
Bonjour Charles, bonjour à tous. Noël n'aura pas eu raison de tous les barrages d'agriculteurs, mais ils sont de moins en moins nombreux et la circulation reprend, notamment en Ariège où les dégâts sont importants. Noël que de plus en plus de Français ont passé sur les pistes de ski. Il en sera de même pour le nouvel an cette année. La fréquentation est en hausse de plus de 2%. Et puis un cadeau de Noël pour la famille du chercheur Laurent Vinatier, détenu en Russie depuis juin 2024. Le Kremlin a fait hier une proposition de libération à la France.
Quelques blocages d'agriculteurs se poursuivent dans le sud-ouest.
On en compte encore une vingtaine. Dernier reliquat de ce mouvement contre la gestion par le gouvernement de l'épidémie de dermatose nodulaire qui frappe les bovins. Un mouvement qui aura survécu à Noël sur les autoroutes A63 et A75. Mais bonne nouvelle, certains tronçons ont pu rouvrir hier. C'est le cas notamment sur l'A64 et l'A65 dans les Pyrénées-Atlantiques. Sur la route nationale 20 en Ariège, le blocage a été levé lundi dernier, mais la circulation vient à peine de reprendre, car le nettoyage a pris du temps, Lou Garnier.
Presque comme si de rien n'était. Quatre jours après la levée du blocage de Tarascon sur Ariège, tout a été nettoyé, mais il reste des traces. Émilie Barom est sous-préfète de l'arrondissement de Pamiers, en Ariège.
Il y a des dégâts. Vous avez des panneaux arrachés, vous avez des voiries abîmées, voire brûlées.
Sans compter des déchets, notamment déversés devant la préfecture de l'Ariège par les agriculteurs dans la nuit de dimanche à lundi.
On est à plusieurs centaines de tonnes. On a des déchets qui contenaient notamment de l'amiante, des hydrocarbures, du tout venant béton, du bois, du fumier, des encombrants, des pneus. On est sur des coûts de plusieurs centaines de milliers d'euros.
Une facture salée que va devoir payer l'État. Christophe Goisé est éleveur bovin et porte-parole de la Confédération paysanne de l'Ariège. Il était sur le barrage, alors il reconnaît des dégradations, mais ne se sent pas responsable.
Quand vous poussez les gens à bout, il y a forcément des débordements. Donc moi, je remets la responsabilité intégralement sur les épaules de l'État. Si l'État avait suivi la voie de dialogue, il n'y aurait pas eu tout ça derrière.
Le barrage a été levé pour ne pas pénaliser les commerçants, selon lui, mais pas de trêve pour autant. Il l'affirme, de nouvelles actions sont possibles.
Le plan grand froid activé dans une vingtaine de départements est déjà un drame à Reims où un sans-abri de 35 ans est mort dans la rue la nuit de Noël. La circulation qui revient donc progressivement à la normale et ça tombe bien car vous êtes nombreux à prendre la route des montagnes. Les stations de ski font le plein, elles seront remplies à 90% pour le nouvel an avec une fréquentation en hausse par rapport à l'an dernier, Marius Roland.
En particulier du côté de Gavarnie-Gèdre dans les Hautes-Pyrénées, 47% de clients en plus sur les remontées mécaniques depuis le début des vacances par rapport à 2024. Et ça ne risque pas de diminuer d'ici le nouvel an. Coralie Sanchez est directrice des ventes.
Là, on est sous des chutes de neige depuis plusieurs jours. Donc on est en train de cumuler une sacrée proposition de ski. On est déjà à 135 cm en haut du domaine. Et le beau temps arrive cette fin de semaine. Donc là, ça va être le combo parfait.
Même son de cloche dans les Alpes, où on constate une hausse des réservations de 35%, notamment en Savoie, au Carélis, à 1600 mètres d'altitude. D'autant que la station fête ses 50 ans, alors les hébergements sont complets pendant toutes les vacances. Yanis Méry est directeur du domaine.
Les animations qu'on met en place sur ces 50 ans ont été moteurs et vont continuer à l'être. Ça s'active, que ce soit au niveau des commerces, des restaurateurs et au niveau du fourmillement qu'il y a au niveau de la destination. On le voit au départ des remontées mécaniques.
Les professionnels du ski garderont le sourire. Même après les fêtes, plus de la moitié des résidences sur les pistes en France sont déjà réservées jusqu'aux vacances de février.
Un geste de Vladimir Poutine pour Noël.
C'est en tout cas hier que le chef du Kremlin a annoncé qu'il avait fait à la France une proposition pour libérer le chercheur Laurent Vinatier, détenu pour espionnage depuis juin 2024. Le Quai d'Orsay a confirmé l'avoir reçu sans en détailler les contours. Mais l'espoir est permis et il est immense pour la famille du Français Thomas Becker.
Oui, l'Élysée assure être pleinement mobilisé pour obtenir la libération de Laurent Vinatier. Il faut dire que l'ouverture inattendue du Kremlin hier fait souffler un vent d'optimisme.
C'est positif. Un vrai espoir cette fois.
La mère de Laurent Vinatier, Brigitte, imagine même une libération dans un futur proche.
Dans les jours à venir ou dans les semaines ou le mois à venir, ce serait déjà tellement merveilleux, je me vois déjà aller l'attendre sur le tarmac de l'aéroport et le voir descendre.
Un espoir d'autant plus fort qu'Emmanuel Macron, il y a quelques jours, estimait qu'il allait redevenir utile de parler à Vladimir Poutine. C'est tout ce qu'espère maître Frédéric Belot, avocat de la famille Vinatier.
Nous espérons que le président Macron arrivera avec le président Poutine à évoquer le cas de Laurent Vinatier et qu'une issue favorable sera trouvée.
Avec, selon lui, plusieurs options sur la table. L'abandon des poursuites judiciaires, un transfèrement sur le sol français ou une grâce présidentielle. Dans les trois cas, une intervention directe de Vladimir Poutine.
En France, du mieux à la Poste, dont les services sont quasiment revenus à la normale après la cyberattaque de lundi. Le site internet est de nouveau accessible. En revanche, le suivi des colis reste encore légèrement perturbé. Et certains se font encore livrer leurs cadeaux, car Noël est bien loin d'être terminé dans beaucoup de familles françaises. Des célébrations aux airs de marathon, vous l'avez constaté à Tours pour RMC, Antonin Audion.
Parmi les marathoniens, il y a bien sûr les membres des familles recomposées comme Paul. Il enchaîne les repas de Noël.
Là, c'est mon troisième là actuellement. Père, mère et beau-père, donc trois familles, donc trois Noël.
Mounir vit les fêtes au pas de course. Il est venu voir sa mère à Tours avant de rendre visite à ses enfants à La Rochelle et à l'île de Ré.
Les familles sont dispersées et donc si on veut retrouver tout le monde, une année sur deux, les gens se regroupent. L'année d'après, bah, il faut aller chez les uns, chez les autres. Voilà. Bah, ça fait partie de la vie, c'est aussi, ça permet de voir du pays.
Une période qui n'est pas de tout repos pour Xavier. Sorti courir entre les cadeaux et le repas.
On fait le tour de France pour voir toute la famille.
Et pourquoi vous sortez courir aujourd'hui?
C'est pour mieux manger ce midi. C'est pour rester en forme et pour profiter.
Et qui dit marathon de Noël dit une pluie de cadeaux pour les enfants de Mathilde.
Bah, les cadeaux, on essaie de limiter pour pas qu'il y ait non plus une profusion, mais oui, il y en a beaucoup. Ouais. On demande aux personnes aussi de ne voilà, de pas faire trois cadeaux par enfant. Quoi.
Une course effrénée qui pourrait bien durer jusqu'au nouvel an.
Des cadeaux à profusion avec parfois des loupés. Et comme chaque année, les reventes en ligne explosent. Hier midi, près de 400 000 annonces avaient été déposées sur la plateforme Rakuten qui anticipait de dépasser le million d'ici la fin de journée. On en parle juste après ce journal avec la directrice des relations clients du site internet.
Mais on termine ce journal avec le Quintet, 20h15, l'hippodrome de Vincennes.
Et voici le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Le favori aujourd'hui, c'est le numéro 8, Keller de Liton. L'outsider, c'est le 14, Kisco de Faël.
C'était le journal d'Élise Dangean à 7h36 sur RMC, en direct aussi sur RMC Story. On part tout de suite dans l'Hérault, rejoindre Delphine Mercier. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maraîchère bio à Pézenas et vous avez perdu l'intégralité de votre production dans les inondations qui ont touché la région de Montpellier en début de semaine. D'abord, racontez-nous, Delphine Mercier, que s'est-il passé?
En fait, mardi, je suis arrivée au jardin comme prévu. Je me suis garée à l'emplacement comme prévu. Il y avait de la terre. Je suis allée voir un lapin. Et à mon retour, j'avais de l'eau jusqu'au mollet.
Et alors, conséquence directe, c'est toute la production qui a été immédiatement perdue. Est-ce que vous avez pu sauver quand même une partie de votre production?
Alors, niveau production, non. non. Niveau semis de sable de l'Elzinia, on est en train de voir si on peut faire quelque chose, mais il y a énormément d'humidité, donc je pense pas. Et niveau des animaux, ils sont tous sauvés.
Oui, mais ce sont des mois de travail qui sont partis à l'eau, si j'ose dire. Delphine Mercier, vous arrivez à évaluer les dégâts, à évaluer combien vous allez perdre?
Combien, je sais pas, c'est toute la récolte automne-hiver, sachant que oui, effectivement, j'ai fait les semis de ces produits-là, c'était au mois de juillet, août, donc oui, j'ai énormément de temps pour arriver à plus rien.
Oui, et vous avez témoigné dans une vidéo sur les réseaux sociaux, vidéo largement partagée ces derniers jours, ces dernières heures. Il y a un véritable élan de solidarité autour de vous, Delphine Mercier.
Ah oui, c'est énorme, je m'attendais pas du tout à tout ça. Entre les personnes qui viennent m'apporter de la nourriture pour que je puisse passer Noël et de l'alimentation pour les animaux, une cagnotte, puis des gens qui sont là, qui viennent voir, qui m'encouragent.
Oui, donc parce ça, que ça vous parlez de cette cagnotte, je vais préciser, j'ai regardé ce matin, elle atteint déjà plus de 3000 euros. Je vais préciser d'ailleurs comment la trouver. L'adresse est un peu compliquée, il suffit de taper Edon Delphine sur le site Hello Asso pour trouver directement cette cagnotte et pour vous aider. Il y a plus de 3000 euros aujourd'hui, mais c'est important pour vous parce qu'en fait, ça veut dire plus de revenus pendant des semaines, voire des mois, là, aujourd'hui, ce drame pour vous, Delphine.
C'est ça, ça veut dire plus de revenus jusqu'au mois de juillet. Donc juillet, ça veut dire les plantations, enfin les récoltes des produits de printemps-été. Donc tout ce qui est tomates, mais voilà, avec quand même, il faut quand même que je commence à préparer les semis. Donc voilà, il y a plus rien jusqu'au mois de juillet.
Ça c'est le matériel, Delphine, si j'ose dire. Mais quel est le moral ce matin, Delphine Mercier, au lendemain de Noël? J'imagine ça gâche un peu les fêtes, plus qu'un peu d'ailleurs. Est-ce que vous arrivez à tenir? C'est quoi? C'est l'élan de générosité autour de vous qui vous aide à tenir?
Oui, alors il y a l'élan, et puis bon, c'est vrai que je suis quand même quelqu'un de positif, donc j'ai sauvé les animaux, j'ai eu ma livraison d'engrais un peu brusquement avec le limon. Et voilà, il y a toute cette chaîne. Donc, du coup, ça m'a permis de booster. Hier, j'ai nettoyé tout le local de vente pour une ouverture là aujourd'hui. Bon, il n'y aura pas tout, évidemment, les produits, mais j'avais quand même un petit peu de réserve au local de vente que j'ai pu mettre en hauteur. Donc voilà, il faut vite que les choses rentrent dans l'ordre.
Mais on l'entend à votre voix, Delphine Mercier. Vous refusez d'être abattue.
Ah, complètement.
Mais c'est important de l'entendre aussi ce matin. On pourrait se dire, elle a tout perdu, la pauvre. On pourrait être à votre place. Tout le monde ne serait pas aussi courageux que vous, Delphine Mercier. C'est pour ça qu'on voulait vous mettre à l'honneur ce matin sur RMC, entendre votre message et puis donner aussi relayer votre appel à cette générosité, cette cagnotte notamment, et dont Delphine sur le site Hello Asso. Merci et courage, Delphine Mercier, un maraîchère à Pézenas, près de Montpellier. Et cette cagnotte en ligne, évidemment, toujours disponible. Il est 7h40 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et tout de suite, on va faire un tour au standard, au 32-16. On va écouter vos témoignages. Tiens, ce qui vous fait réagir, c'est la nette baisse de fréquentation des cinémas cette année en France. Fort recul du nombre de spectateurs en France. On va accueillir Sébastien, qui nous appelle des Alpes-Maritimes, du côté de Valoris. Bonjour Sébastien.
Bonjour Charles, bonjour à toute l'équipe.
Bonjour Sébastien, infirmier libéral. Vous allez encore au cinéma ?
Ah oui, carrément. Hein. Moi, je suis abonné, en fait. Donc, sur cette année-là, j'ai été voir 39 films.
39 donc, films
c'est pas mal, je pense, en termes de moyenne.
Ah bah oui, vous êtes assidu, ouais. Ça fait... Ça fait quasi
c'est dur. Hein.
Ouais, ça fait quoi, 3 par mois, 1 par semaine? C'est toutes les semaines, en fait, pour vous, Sébastien.
En fait, des fois, carrément, moi, je me fais des sessions cinéma, j'appelle ça. Je vais voir 2 films dans la même journée. J'enchaîne 2 films, je fais une petite pause, ou alors je mange entre 2. Et puis, ça me permet d'avoir des films qui m'intéressent. Des fois, je vais sur des films que je ne connais pas. Et ça permet de découvrir des belles surprises, en fait. Donc,
et ça vous coûte combien, l'abonnement?
Eh ben, justement, l'abonnement, je trouve que c'est très raisonnable, hein. C'est 22,90€ par mois. Donc, c'est en illimité. On y va autant qu'on veut. Sauf si, bien sûr, on va avoir des films en 3D, 4D, etc. Là, il y a des suppléments. Oui. Mais en termes de films standard, on est déjà à 23€, ce qui est correct, hein. Si on fait déjà 2 films, on a remboursé, on va dire, l'abonnement.
Et alors, Sébastien, vu que vous avez tout vu cette année, si vous aviez un conseil, un film à retenir, celui qu'on a raté cette année en salle, c'est quoi?
Bah, je pense pas qu'il était raté. Un qui m'avait bien marqué, c'était Chien 51.
Oui.
Voilà, ça c'est un des films que j'ai préféré. Après, j'en ai été voir pas mal, hein. Un qui m'avait étonné, c'était F1.
Oui, avec Brad Pitt.
C'est ça, avec Brad Pitt. Je suis pas trop dans l'univers, en fin de compte, ça m'a bien plu. Mais il y a plein de films différents, en fait, même en comédie. C'était mieux demain, c'était top. Enfin, il y a un tas de films, en fait, hein, de tout genre.
Merci Sébastien pour votre témoignage, ça fait plaisir parce qu'on a beaucoup de messages depuis ce matin d'auditeurs qui nous disent non, on va plus au cinéma, ça coûte trop cher, etc. Et puis on a Netflix à la maison. Maintenant vous Sébastien, alors grâce à ce système d'abonnement, vous continuez à y aller régulièrement. Merci d'être venu partager votre année cinéma avec nous ce matin au 32-16. À 7h42 dans un instant, on va parler de vos cadeaux de Noël. À peine offerts, déjà revendus. Le nombre d'annonces publiées le jour de Noël a encore augmenté cette année. Les livres, les jeux vidéo, mais aussi des smartphones, des jouets, tout se revend sur votre site Rakuten. Bonjour Thérèse Duhameau.
Bonjour.
Vous êtes la directrice relations clients de Rakuten France. Est-ce que c'est définitivement la fin d'un tabou? Est-ce qu'on peut tout revendre à peine offert? Vous nous dites tout dans un instant sur RMC.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Charles Magnin.
7h44, vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Bon réveil à tous, c'est désormais la nouvelle tradition au lendemain de Noël, la revente des cadeaux. Bonjour Thérèse Duhameau.
Bonjour.
Vous êtes la directrice relations clients chez Rakuten France, hein, plateforme spécialisée notamment dans la revente pour les professionnels comme pour les particuliers. Et rien que sur la journée d'hier, vous avez enregistré 400 000 annonces de revente de cadeaux. Ça veut dire qu'à peine déballé au pied du sapin, hop, on met en ligne sur les sites.
Oui, tout à fait. Donc, ça commence déjà le 24 le soir.
Ah oui.
Et en fait, on enregistre un pic le matin du 25. Et après, ça continue jusqu'à fin décembre, début janvier.
Mais ça veut dire qu'il y en a plus que l'an dernier encore? Ça progresse d'année en année? Chaque
oui.
année, on revend plus de cadeaux?
Oui, oui, oui. Il est un peu plus que l'année dernière. Précisément 2% de plus que l'année dernière.
Alors, je vois que d'ici début janvier, vous espérez 1 million d'annonces sur votre site. On parle de quoi? De livres, de jeux vidéo, les produits high-tech. Qu'est-ce qu'on revend le plus? Qu'est-ce qui arrive en masse là, le 25 décembre sur votre site?
Alors, des produits culturels, des livres, des DVD, aussi des produits
DVD
high-tech.
Encore? On offre encore
oui,
des
on
DVD?
Oui, on vend des DVD chez Rakuten, oui. Et on offre encore des DVD, on revend des DVD.
D'accord. Et est-ce que vous savez pourquoi vos clients revendent? Vous les avez sondés, vous savez
oui,
qu'est-ce qui motive
fait.
La revente d'abord? Est-ce que c'est le fait que, je sais pas, qu'on l'ait en double, que ça nous plaise pas? Est-ce qu'on assume de plus en plus de revendre?
Alors, on a réalisé une étude. Chaque année, on réalise une étude pour les habitudes de consommation à Noël, la seconde main et aussi, évidemment, la revente des cadeaux. Donc, on voit qu'une personne sur trois sera prête à revendre son cadeau de Noël s'il ne lui plaisait pas. Et encore plus important, trois personnes sur quatre sera positive ou neutre si un proche revendait un cadeau. Donc, qu'est-ce qu'on revend? On revend des produits culturels, livres, DVD, on revend des produits high-tech. De iPhone, beaucoup,
ah oui,
et
les
des
smartphones,
jouets,
etc.
Les smartphones, oui.
On se fait offrir un smartphone et hop, on le met en ligne le lendemain.
Peut-être on l'a déjà, oui.
Et ce que je comprends dans votre étude, c'est qu'on assume désormais. On le dit
oui,
à ses proches.
Tout à
tu
fait.
M'as offert ce cadeau, eh ben, je te préviens, je vais le remettre en vente sur Rakuten le lendemain.
C'est un geste de plus en plus décomplexé, de plus en plus accepté, oui.
Mais ça ne choque pas ceux qui offrent les cadeaux?
Ça choque de moins en moins, oui.
Oui, mais c'est troublant, non? Vous surfez sur ce business de ces Français qui, quelque part, bah, s'offrent des cadeaux en sachant qu'ils vont être revendus dès le lendemain. C'est votre cœur de métier, vous. C'est votre grande période de l'année, en fait. Vous avez hâte que votre saison commence le 24 au soir, quoi.
Alors, on est acteur de seconde main depuis toujours, chez Rakuten. Ouais. Donc, un produit sur deux vendu, c'est un produit d'occasion, reconditionné ou occasion.
Ouais.
Mais effectivement, c'est une période où les gens revendent les cadeaux.
Et on revend pourquoi? Est-ce qu'on revend pour s'acheter un autre cadeau qui nous fait encore plus plaisir? Est-ce qu'on revend pour avoir de l'argent? Parce qu'on sait qu'évidemment, c'est compliqué cette période des fêtes, notamment pour le pouvoir d'achat. Qu'est-ce qu'on fait de l'argent une fois qu'on a revendu?
Alors, il y a deux motivations principales. Effectivement, la première motivation, c'est d'avoir du pouvoir d'achat, donc récupérer de l'argent. Mmh. En moyenne, les gens qui ont revendu leur cadeau de Noël en 2024 ont récupéré 100 euros. Mais certaines personnes ont récupéré plus que 300 euros. Donc, c'est effectivement, c'est un budget important pour réinvestir dans quelque chose qui nous fait vraiment plaisir.
Et ça fait réagir sur le WhatsApp de l'émission, Victor Pourchet. Est-ce qu'on assume de revendre ces cadeaux?
Alors, on assume assez peu, surtout on le prend très mal, il faut le dire. Christian nous dit, je trouve ça bien dommage, j'entends que ça devient convenu, mais qu'est-ce qu'on en fait si c'est un cadeau qui a été fait en se privant financièrement, rien que pour faire plaisir, et que finalement on le revend sur Internet? On a aussi Thierry, à qui ça déplairait fortement de voir sur un site le cadeau qu'il a offert avec grand plaisir. Il préfère, lui, qu'on lui dise directement, quitte à ce que ce soit lui qui rachète un cadeau derrière.
Oui, c'est pas évident d'annoncer à ses proches le soir de Noël, bon, ton cadeau, merci beaucoup, mais il sera demain en ligne. Pourtant, dans votre étude, beaucoup assument et le disent à leurs proches.
Oui, effectivement, c'est une tendance qui est de plus en plus forte. Ça ne veut évidemment pas dire que 100% de la population est à l'aise.
Oui, mais ça interroge sur le fait que, comment dire, est-ce qu'on consomme pas trop? On a l'impression qu'on se force à s'offrir des cadeaux, même en sachant, sans forcément les personnaliser, sans forcément s'intéresser au goût des autres. On achète pour revendre presque. C'est devenu du troc en permanence. À peine on déballe, on évalue déjà, tiens, à combien je vais le mettre en ligne, à combien je vais le revendre, quoi. C'est devenu un réflexe pour les Français dès qu'on leur donne ou offre quelque chose de se dire combien je vais le revendre.
Oui, c'est un changement de perception aussi des objets. C'est moins un objet sentimental, dans certains cas, évidemment, pas toujours. Mais c'est aussi une démarche écologique. Donc les gens sont de plus en plus sensibilisés à l'impact.
C'est plutôt que, bon, ce cadeau ne me plaît pas trop, mais je ne vais pas oser le dire, mais je vais le cacher dans un placard et il va y dormir pendant des années. Ça. Et ben, il vaut mieux lui donner une seconde vie, le revendre à quelqu'un qui en a vraiment envie ou qui a vraiment besoin. On sent qu'on se tourne plus vers l'utile, c'est ça, que vers la surconsommation. On veut un cadeau dont on va vraiment se servir. Je vais vous remercier, Thérèse Duhamel, d'être venue nous dévoiler ces chiffres parce que c'est donc la première tendance. Hier, on était donc à 400 000 annonces dès hier midi, c'est ça, si j'ai bien compris.
Oui.
Et vous pensez que vous serez largement à 1 million d'annonces d'ici début janvier. Et on l'a bien compris, c'est devenu un sport national en France dès l'ouverture des cadeaux. On les remet en vente, en tout cas pour différentes motivations, mais notamment, vous nous le dites, d'abord pour avoir de l'argent, tout simplement, pour garder l'argent pour soi en ces périodes de tension sur le pouvoir d'achat. Et c'est de moins en moins tabou. Venez nous raconter au 32-16, est-ce que ça vous choque ou au contraire, est-ce que c'est assumé? Est-ce que vous l'annoncez aussi à vos proches lorsque vous revendez leurs cadeaux? N'hésitez pas à témoigner au 32-16 et sur le WhatsApp de l'émission. Dans un instant, à 7h50, on parlait des cadeaux de Noël. On parle de toute la semaine avec Louis Salé des indémodables de Noël, ces cadeaux qu'on ne revend pas forcément, une belle BD notamment. C'est ça dont on va parler dans un instant, Louise.
Oui, absolument. Si vous voulez être certain de faire plaisir, eh bien, du dernier album d'Astérix, au dernier aussi One Piece, certaines séries de BD cartonnent depuis plus de 20 ans.
RMC, Apolline Matin.
7h51 sur RMC, tout de suite, c'est le bonus avec Victor. Et les parents n'en ont pas fini d'entendre de la K-pop.
Eh oui, la K-pop, c'est la musique pop coréenne, comme son nom l'indique. Et si vous avez entendu cette chanson Golden à peu près 150 fois ces derniers mois, c'est bien parce que le film dont elle est issue bat des records sur Netflix. Ce film, il s'appelle K-pop Demon Hunters et il vient de dépasser les 500 millions de visionnages sur la plateforme du jamais vu pour un film d'animation. De quoi peut-être détrôner Vaiana dans quelques jours, la princesse Disney et depuis 2 ans le dessin animé le plus vu aux États-Unis.
RMC, Apolline Matin.
7h52 sur RMC, c'est notre série toute la semaine, les cadeaux indémodables avec vous, Louise Salé. Rebonjour Louise.
Bonjour Charles.
Noël est passé, mais on continue là, les réveillons de famille, les dîners entre amis, c'est l'occasion de s'offrir encore quelques cadeaux. Et s'il y a bien un objet qui marche toujours, c'est la BD, la bande dessinée, avec des séries qui cartonnent depuis des décennies, Louise.
Oui, des séries qui ont traversé notre enfance. Alors est-ce que vous êtes plutôt Tintin ou Astérix, Charles?
Moi j'étais très Tintin, mais mes enfants sont Astérix, donc j'ai envie de dire les deux pour une fois. Je ne trancherai pas. J'aime
et
les
vous,
deux.
Victor?
Astérix, c'est le choc des générations, ça.
Je le prends bien. Je vais être la team Tintin alors.
En tout cas, c'est Astérix qui continue d'enregistrer des records à Noël. L'irréductible Gaulois est né dans les années 60. Bien sûr, les créateurs ont disparu, mais de nouveaux auteurs, de nouveaux dessinateurs ont pris le relais. Et ses aventures comptent parmi les BD les plus lus au monde. Alors, est-ce que vous avez un album préféré quand même, Victor, justement, vous qui êtes fan?
J'ai trouvé le dernier pas mal.
C'est vrai?
En Lusitanie.
Ouais. Le combat des chefs aussi était super.
Ouais, justement, mais le dernier, en fait, il cartonne. Il a fait 1 million d'exemplaires en seulement 3 semaines. C'est un record. Lorsqu'un nouveau tome sort avant les fêtes comme celui-ci, le chiffre d'affaires du marché français de la BD s'envole et compte très clairement sur Astérix, qui est régulièrement classé livre le plus vendu de l'année. Astérix, c'est donc le cadeau valeur sûre pour ses clients du magasin de bande dessinée Gibert à Paris.
J'achète toujours le dernier Astérix quand il sort, même si c'est moins bon. On reste quand même fidèle.
Je fais une collection pour mes enfants, en fait. Je vais regarder Boule et Bill, les Lucky Luke, les Astérix. C'est ce qui se lit, quel que soit l'âge et quelle que soit la situation.
Les classiques comme Astérix, c'est léger, il y a l'humour, c'est tout public, c'est pour les petits et les grands.
Et à part Astérix, est-ce qu'il y a d'autres BD classiques comme ça qui cartonnent à Noël?
Oui, Black et Mortimer, Lucky Luke, Spirou aussi, fonctionne très bien. De nouveaux épisodes sortent régulièrement et Stéphane observe qu'ils sont toujours très demandés. Il est responsable du magasin de BD Gibert.
Les ventes des grandes séries classiques, on est au moment des fêtes sur des pics très importants, sur des ouvrages qui pourtant ont 20 ans, 30 ans, 40 ans et qui se vendent encore mieux que beaucoup de nouveautés, malheureusement, pour les auteurs en activité en ce moment. Mais
alors je vous rassure Charles,
Tintin se situe quand même en très bonne position.
Ah bah oui.
3 millions d'exemplaires vendus chaque année, hein, même s'il n'y a pas de nouveaux albums. Ça reste la collection qu'il faut avoir chez soi.
C'est bon, je l'ai.
Bon, bah, parfait. Avec de belles éditions. Il y en a aussi qui collectionnent, hein, de oui. très vieilles éditions. Voilà, ça marche toujours. C'est vraiment une spécificité, contrairement aux autres classiques. Le dernier Tintin date quand même de 1986 et personne oui. depuis n'a repris le flambeau.
On a beaucoup parlé des BD là, mais n'oublions pas les mangas qui cartonnent aussi.
Oui, vous faites très bien de me poser la question, Charles, parce que les mangas sont vraiment clés sur ce marché. Leurs ventes baissent hein, légèrement depuis 2023, mais d'après l'Institut Nielsen IQ Book Data, plus de la moitié des BD achetés en France hein, aujourd'hui sont des mangas.
Mais oui.
Nous sommes d'ailleurs les deuxièmes consommateurs au monde, juste derrière les Japonais. Alors là aussi, hein, c'est vraiment des séries qui ont plus de 20 ans d'existence, comme Dragon Ball, Naruto, ah oui. One Piece, qui sont de vraies locomotives pour ce secteur. Victor, Charles, est-ce que vous êtes un peu manga ?
J'étais Dragon Ball.
Dragon Ball, ouais.
Moi, pas tellement, mais ça a été un des cadeaux que j'ai offert à Noël.
Ouais, parce que ça marche vraiment toujours. Les ados en raffolent, les jeunes adultes aussi, hein, un peu nostalgiques justement de leurs années d'adolescence. J'ai rencontré une mère qui cherchait des albums One Piece pour sa fille de 23 ans.
Je crois qu'elle en a pas loin de 100, je crois, voire même plus peut-être. Le côté un peu pirate, les combats, ça lui plaît beaucoup.
Mmh. One Piece est la série manga la plus vendue de tous les temps, avec plus de 500 millions d'exemplaires écoulés dans le monde entier.
Merci beaucoup, Louise, pour tous ces cadeaux cette semaine, de nous avoir fait rêver et de nous avoir rappelé aussi ces magnifiques classiques de la BD, du manga. Louise Salé, spécialiste cadeau à la rédaction d'RMC désormais. Dans un instant... Le journal de 8 heures, des températures négatives cette nuit sur une partie du pays. Nous avons passé la nuit dans un camion de la Croix-Rouge. Dans un instant aussi, la météo. On le disait, le froid sur tout le territoire et la pluie attendue dans le sud-ouest. Et puis juste après le journal, on va parler économie et fiscalité avec vous, Pierre Rondeau. Bonjour.
Bonjour, Charles.
Au lendemain de Noël, si j'ai reçu de l'argent de la part d'un proche, est-ce que je dois le déclarer au fisc ?
Alors, ça va dépendre du montant et l'administration fiscale a tout prévu.
Ça tombe bien. On détaille tout ça dans un instant sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Bon réveil, vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Il est 8h.
RMC, Apolline Matin.
Le journal avec Clara Gabillet. Bonjour Clara.
Bonjour Charles, bonjour à tous. Des mesures d'urgence pour ne pas mourir de froid. Le plan Grand Froid activé dans une vingtaine de départements. Un refus d'obtempérer dans les Vosges. Deux gendarmes blessés, renversés par le conducteur toujours en fuite ce matin. Et puis les salles de cinéma n'ont jamais été aussi vides depuis 28 ans. Forte baisse de fréquentation plombée par l'absence de films à gros succès.
Des places d'hébergement d'urgence, plus de moyens pour les maraudes, le plan Grand Froid activé dans plusieurs départements.
Dans une vingtaine de départements du nord de la France pour permettre aux associations d'aider davantage de personnes sans abri, très vulnérables face aux températures négatives. Un homme sans abri retrouvé mort dans la rue hier à Reims. Aide vitale donc des bénévoles comme ceux de la Croix-Rouge qu'a pu suivre Léonie Guilbeault hier soir. Reportage en région parisienne dans le Val-de-Marne.
Nous faisons route vers la commune d'Ivry-sur-Seine pour le signalement. Est-ce reçu ?
Premier arrêt pour Patrick et son équipe de bénévoles à un parking souterrain où une dame qui vit à la rue a trouvé refuge.
C'est qu'il fait froid, il y a du vent. Donc automatiquement, ils essaient de se protéger, notamment des courants d'air.
C'était à zéro, donc ça peut faire du moins 5 en ressenti.
L'objectif, la convaincre d'accepter une place d'hébergement d'urgence, explique Catherine.
C'est vraiment le premier but de la maraude, c'est d'établir un lien de confiance pour les amener à aller vers les lieux d'accueil, etc.
Mais ce ne sera pas pour ce soir.
Beaucoup refusent d'aller en centre d'hébergement. Soit parce qu'ils ont un caddie avec leur vie dedans, soit ils ont un animal. Et puis, il ne faut pas croire que les centres d'hébergement, ce sont des hôtels 3 étoiles pour gens qui sont dehors.
Mais au feu rouge, une dame tape à la fenêtre du camion de la Croix-Rouge.
Bonsoir madame.
Vous avez pas de duvet, non ?
On va discuter avec vous, on va juste se garer.
Bah, en fait, on essaye de trouver une solution d'hébergement pour madame.
Là, elle tremble, donc elle n'est pas en état de résister dehors. Je vais vous demander de monter, madame.
Direction un centre d'hébergement parisien où elle va pouvoir passer quelques jours au chaud. Un chauffard toujours recherché ce matin dans les Vosges, en fuite après son refus d'obtempérer hier à Chavelot, au nord d'Épinal. L'homme a renversé deux gendarmes. Célestin Bougère en direct avec nous. Les circonstances du drame restent à éclaircir, mais le caractère intentionnel ne fait presque aucun doute.
Oui, c'est en tout cas ce que révèlent les premiers éléments de l'enquête. Selon une source proche du dossier, deux gendarmes de la brigade motorisée de Remiremont ont voulu contrôler un véhicule vers 16h30 hier sur la RN57. Le conducteur a d'abord fait mine de s'arrêter. Un premier gendarme a été percuté lorsque le véhicule a fait une marche arrière. Le conducteur a ensuite fait demi-tour pour venir heurter le deuxième motard de la gendarmerie avant de prendre la fuite. Un acte délibéré pour blesser les gendarmes, ça ne fait aucun doute pour Axel Ronde, le porte-parole du syndicat CFTC Police.
On voit bien que l'individu a dû s'arrêter et a attendu que les motards descendent de leur moto pour leur foncer carrément dedans et prendre la fuite. Donc on voit que vous avez affaire à des individus qui n'ont absolument plus peur de rien et qui mettent, encore une fois, la vie en danger des policiers et des usagers.
Les deux gendarmes blessés ont été pris en charge pour des soins, mais leur pronostic vital n'est pas engagé. Leur état n'inspire pas d'inquiétude, a voulu rassurer le ministre de l'Intérieur sur X hier soir. Laurent Nunez dit condamner fermement cet acte grave qui met volontairement en danger la vie de ceux qui nous protègent. Tout est mis en œuvre, précise le ministre, pour retrouver le conducteur qui est toujours en fuite ce matin.
Et les précisions de Célestin Bougère pour RMC.
Et justement, un nouveau délit routier va entrer en vigueur ce lundi.
On vous en parlait hier sur RMC pour les grands excès de vitesse de plus de 50 km/h au-dessus de la limite. Ils seront passibles de 3 mois de prison et de 3 750 € d'amende. Une mesure de fermeté assumée hier sur notre antenne par la ministre déléguée au ministère de l'Intérieur. Mais Julie Brault, vous avez lu cette loi et une dérogation interroge. Une dérogation grâce à une simple amende.
Oui, le paiement d'une amende forfaitaire de 300 € est bien prévu par le texte de loi. Son versement peut, je cite, éteindre l'action publique. Concrètement, si l'auteur d'un grand excès de vitesse règle cette amende, il échappera à un jugement devant le tribunal correctionnel. Une dérogation qui peut s'appliquer à tous les mis en cause, y compris aux récidivistes, c'est-à-dire ceux qui n'en sont pas à leur premier délit routier.
Julie, ça veut donc dire qu'il suffit de payer 300 € pour ne pas être poursuivi ?
Alors attention, hein, ce n'est pas vous qui décidez ou non de payer cette amende. Selon un avocat spécialisé dans le droit routier, seul un juge du ministère public peut vous octroyer cette dérogation. Une modalité qui nous a été confirmée par une source gouvernementale. Ce juge aura au préalable pris connaissance de votre dossier, c'est-à-dire dans quelles conditions vous avez commis un grand excès de vitesse ou encore quels sont vos antécédents judiciaires. Il pourra ensuite décider ou non de vous proposer comme sanction alternative de payer cette amende forfaitaire de 300 €. Une dérogation qui pourrait par exemple être adressé à un conducteur dont le casier judiciaire est totalement vierge.
Julie Brault, service police-justice d'RMC. Près des quartiers nord de Marseille, à Septèmes-les-Vallons, un corps calciné retrouvé hier dans une voiture incendiée, potentiellement sur fond de trafic de drogue. Un autre homme, 45 ans, lui blessé par balle, a été pris en charge au même moment. Son pronostic vital est engagé.
8h05 sur... C'est peut-être une nouvelle attaque de loup.
En Haute-Marne, un troupeau de brebis décimées, une vingtaine retrouvées mortes dans le pâturage d'un éleveur. Selon lui, on aperçoit ce loup sur les images de vidéosurveillance. L'autopsie des bêtes doit le confirmer aujourd'hui. L'éleveur Gabriel Binon, lui, parle en tout cas d'un véritable carnage.
On fait un métier qu'on aime et puis se lever le matin, avoir des bêtes égorgées, bouffées, c'est une tristesse absolue. C'est pas un bon Noël. C'est une race qui est assez compliquée à trouver. On va pas équiper nos parcs comme une prison, avec des caméras de surveillance, en ayant peur qu'on ait une attaque de loup. Pour moi, le loup n'a pas sa place en plaine. Pour la Haute-Marne, en une année, on doit approcher les 700 brebis mortes. Et nous, on a 500 brebis, ça fait plus que notre élevage. Le loup, pour moi, il y a qu'un seul mot, c'est de le tuer. Alors il y a des personnes qui n'acceptent pas quand on dit ça, mais qu'elles se mettent à notre place, puis qu'ils voient toutes leurs bêtes rétamées.
Tout est presque revenu à la normale à la Poste. Après la cyberattaque de lundi, le groupe assure qu'il restait hier quelques dysfonctionnements marginaux. Mais le suivi des colis, par exemple, est à nouveau disponible.
Les cinémas français n'ont jamais été aussi peu remplis en 28 ans.
Une année très difficile. La fréquentation a baissé de 14% par rapport à l'an dernier. Notamment car il n'y a pas vraiment eu de gros films à succès cette année. Alors Régine Chal-Ralèche, le cinéma français attend beaucoup des dernières sorties.
2025 touche à sa fin et pourtant, c'est la première fois cette année que Jonathan se rend au cinéma.
Je m'y rends parce que il y a Avatar qui est sorti, donc c'était un film, j'avais déjà vu les deux premiers. Donc je voulais voir la suite.
Mais après, c'est vrai que concernant les films, cette année, je me suis pas du tout renseigné, ni même intéressé.
Même constat pour son ami Thomas, pourtant habitué aux salles de cinéma.
Cette année, j'y vais un peu moins que les années précédentes. Ouais. Au niveau des films, il y en a presque aucun qui m'intéresse.
Une baisse de fréquentation qui est due, selon Jean-Baptiste Fortier, directeur des opérations de Comscore, à un déficit de films.
Les spectateurs ne sont pas venus en salle au même nombre que l'an passé. C'est surtout dû, aux deux films Comte de Monte Cristo et Un petit truc en plus, qui eux, ont permis de faire 20% de fréquentation en plus dans les cinémas l'an passé.
Les professionnels restent néanmoins optimistes pour l'an prochain, avec la programmation de l'Odyssée de Christopher Nolan ou le Marsupilami de Philippe Lachaud. 2026 est l'année de tous les espoirs.
Est-ce bientôt la fin d'un an et demi d'emprisonnement pour Laurent Vinatier, ce chercheur français incarcéré en Russie pour espionnage? La Russie hier qui a annoncé avoir fait une proposition à la France. Emmanuel Macron se dit pleinement mobilisé pour sa libération. Des frappes américaines sur le Nigeria contre le groupe État islamique, des frappes meurtrières dont s'est félicité Donald Trump sur son réseau social. Il en promet de nouvelles si le groupe terroriste continue, je cite, le massacre de chrétiens.
Deuxième journée de la phase de poule de la Coupe d'Afrique des Nations.
Le Maroc joue ce soir contre le Mali et malgré un bon début de compétition, il y a beaucoup de critiques contre le sélectionneur Walid Regragui, des critiques des supporters marocains, Nicolas Pelletier.
Oui, depuis plusieurs mois, le public marocain dans le viseur, le style de jeu de la sélection nationale et le match d'ouverture de la CAN face aux Comores n'a pas arrangé la situation. Le sélectionneur Walid Regragui se défend.
Pour être dans la perfection, et je sais que le public marocain et nos supporters, et ils ont raison, on veut toujours être dans la perfection, dans la progression, c'est que le match il soit réglé à la mi-temps pour beaucoup de monde.
Après des années d'investissement du Royaume dans sa sélection, la pression est immense sur le sélectionneur marocain.
Si Walid Regragui gagne, il nous ferme tous notre bouche, quoi.
Zakaria, supporter du Maroc.
Moi, je fais partie des supporters qui sont exigeants avec notre sélectionneur. Aujourd'hui, nous, on est mitigés parce qu'on a quand même des joueurs offensifs et lui, il aime bien défendre.
Pas de petites phrases, pas de clash. Walid Regragui cherche surtout l'unité du pays pendant cette Coupe d'Afrique, selon Nasreddin Nasri, journaliste pour la Nouvelle Tribune Maroc.
Effectivement, ils sont un peu durs avec lui, mais il a mis la barre très haut avec la demi-finale en 2022 à la Coupe du Monde. Donc, il y a l'union sacrée de l'équipe nationale parce qu'ils veulent aller chercher cette Coupe d'Afrique.
Si le Maroc ne remporte pas cette CAN 2025, Walid Regragui a déjà laissé entendre que son avenir s'écrira loin de la sélection nationale.
Maroc-Mali, match à vivre sur RMC, radio officielle de cette CAN, coup d'envoi à 21h.
C'était le journal de Clara Gabillet à 8h10 sur RMC. Merci Clara, on part tout de suite au 32-16. On va accueillir Thierry qui nous appelle depuis la Charente, La Rochefoucauld, c'est ça? Bonjour Thierry.
Bonjour Charles, bonjour à tout le monde.
Comment ça va Thierry ce matin?
Bah, très bien.
Très bien. Vous bossez là, hein, 26 décembre?
Ouais, je suis un petit peu au bureau, je trie un peu des dossiers et puis je travaille un petit peu, oui. Tranquille.
Voilà, tranquille, version 26 décembre. Mais Thierry, ce qui vous a fait réagir ce matin, justement, c'est au lendemain de Noël, ces chiffres records de revente de cadeaux. On avait tout à l'heure une des responsables du site Rakuten qui disait on a déjà eu 400 000 annonces dès hier midi, on en attend 1 million d'ici le mois de janvier, il y en a de plus en plus chaque année. Les Français revendent de plus en plus leurs cadeaux. Est-ce que c'est votre cas, Thierry? Est-ce que, si vous savez, tiens, si vos proches ont déjà revendu les cadeaux que vous leur avez offerts?
Alors non, je ne sais pas, et puis je préfère même pas le savoir. Je serais déçu, et puis c'est quelque chose que je peux même pas comprendre, dans le sens où quand vous faites un cadeau, c'est que déjà vous faites un cadeau ce qui vous fait plaisir, vous avez envie de faire plaisir à la personne, et vous la connaissez à minima. Vous savez ce qui va lui faire plaisir. Vous achetez pas un cadeau pour acheter un cadeau.
Non, mais parfois la personne l'a en double, etc.
Et ben elle le dit, puis on va le changer.
Ah oui, vaut mieux, voilà, j'ai encore le ticket, t'inquiète pas, je vais le changer.
Je m'imagine aller sur Internet, sur le site, par exemple, de Rakuten que vous avez dit tout à l'heure, la responsable, et puis dire, mais c'est le cadeau que je vais acheter, me le revends.
Ah oui, mais si au fond il se fait plaisir, il récupère des sous pour s'offrir autre chose, est-ce que quelque part l'idée du cadeau c'est pas de faire plaisir?
Bah non. Si, faire plaisir, mais dans ce cas-là, l'année suivante, je lui donnerai le montant en argent de ce qu'il a revendu sur Internet, alors. Comme ça, on sera content.
Bah, vous savez quoi, Thierry, ça se fait de plus en plus. Les Français, maintenant, s'offrent des cartes cadeaux, par exemple.
Vous me voyez aller donner 50 balles à mon frère?
Bah, une carte cadeau de 50 euros.
Non. Ouais, carte cadeau, là, je suis d'accord. Carte cadeau, à la limite.
C'est le bon compromis. Ouais, comme ça, il achète ce qu'il veut ensuite. Et,
vous avez raison, Charles, dans le sens où, entre adultes, souvent, ils ont tout. Qu'est-ce qu'on va leur acheter encore?
Je vous dis ça parce que je viens de faire une carte cadeau pour ma sœur. Hein. C'est pour ça, je vous donne mon tips, Thierry. Voilà, c'est comme ça chez les maniens.
Non, mais après, il y a aussi. Là où on peut être gêné, c'est sur. Parce qu'une carte cadeau aussi, vous affichez la valeur. Donc, des fois, on est un petit peu gêné parce qu'il y en a, mettre 50€, ça fait mal, quoi.
Oui, c'est vrai. Ça a été négocié, âprement négocié, mais c'est vrai que ça oblige à la transparence.
Ouais, sur le fond du truc, c'est vrai que ça. Moi, je suis quelqu'un de cash, donc si j'ai quelque chose à dire, je vais le dire en face. Donc si le cadeau plaît pas, viens me le dire et puis pas de souci, on va trouver autre chose.
Mais vous-même, Thierry, en déballant vos cadeaux, ça vous est jamais arrivé de vous dire ah ça c'est pas terrible, mais je vais pas oser lui dire et puis finalement ça dort au fond d'un placard.
Eh ben franchement, je vais être honnête avec vous. Eh ben non, parce que alors ça va faire pathos, ce que je veux dire, mais c'est la réalité. Rien que le fait que la personne ait pensé à moi et qu'elle m'ait offert un cadeau, ça me touche énormément. Donc de voir le présent qu'elle m'a donné chaque fois, je pense à cette personne. Donc tant pis si c'est un peu kitsch et tout, ça sera quand même sur une étagère dans mon bureau, chez moi, mais pas au fond d'un tiroir. Ça sort de question. C'est du respect.
Vous avez le droit d'être kitsch, Thierry. Vous avez bien fait de venir témoigner. Ce matin, c'est intéressant parce que oui, on a ces chiffres qui nous montrent qu'il y a de plus en plus de reventes, mais pour certains, c'est encore tabou, c'est encore choquant comme vous. Thierry, je vous remercie d'être venu témoigner de bonheur au 32-16 depuis la Charente. Vous faites comme Thierry d'ailleurs, réagissez ce matin 32-16, le WhatsApp aussi de l'émission. Vous connaissez le numéro d'RMC, c'est le 0612 424 424. Mais tout de suite, c'est l'heure de parler gros sous.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Avec Pierre Rondeau, bonjour Pierre. Et on parlait de la revente des cadeaux. Au pied du sapin, certains ont peut-être reçu un chèque, des billets, un don d'argent en tout cas au sein de la famille. Et on se pose la question, est-ce qu'il faut déclarer ces sommes aux impôts?
Grande question, hein, parce que est-ce que l'argent reçu de mamie ou tati doit être déclaré auprès des autorités fiscales? Parce que selon un sondage réalisé par le site Galéon, 67% des Français comptaient offrir de l'argent à leurs proches à Noël. Eh bien, concrètement, aucune déclaration n'est obligatoire auprès des impôts pour ces cadeaux faits entre proches. D'ailleurs, cela s'applique ailleurs qu'à Noël. Les cadeaux offerts lors d'occasions particulières, comme un anniversaire, un mariage ou l'obtention d'un diplôme, sont aussi concernés. Vous n'avez rien à déclarer.
Peu importe le montant, formidable. L'administration fiscale n'en saura jamais rien quand on se donne de l'argent, même beaucoup d'argent entre proches.
Heureusement, ma chronique s'arrête pas maintenant. Donc forcément,
il y a toujours un mais,
Charles, parce que pour le site des impôts, il est clair, la valeur du don doit rester une valeur raisonnable. Autrement dit, vous pouvez donner une enveloppe de billets du moment que le montant n'est pas inhabituel.
Alors attendez, ça veut dire quoi inhabituel? Ça veut dire quoi raisonnable? On veut des chiffres.
Le calcul est posé directement sur le site, c'est très simple. Les montants dits inhabituels concernent uniquement les sommes versées supérieures à 2,5% des revenus annuels du donateur. Donc par exemple, si l'on prend le revenu annuel moyen en France de 32 791 euros, on ne pourra pas donner plus de 800 euros si on ne veut pas le déclarer aux impôts. Et pareil côté receveur, à partir de 2026, hein, c'est la nouvelle règle, il faudra déclarer sur Internet ses dons reçus. Les mêmes règles s'appliquent pour le donateur. Les petits dons reçus à Noël ou lors de grandes occasions ne sont pas concernés, mais les dons dits importants, inhabituels, oui,
il faudra les déclarer. C'est intéressant, si j'ai 30 000 euros de revenus, mais que mes proches me donnent en tout 1 000 euros, en 2026, je vais devoir le déclarer dans mes revenus aux impôts. Et puis Pierre, on parle aussi beaucoup là ce matin de la revente de cadeaux de Noël. Si cette année, je me suis fait quelques centaines, quelques milliers d'euros pour certains sur Le Bon Coin, sur Vinted, en revendant des cadeaux, est-ce que là aussi, je dois le déclarer?
Encore une fois, ça sera par rapport à la valeur et le montant inhabituel.
Alors, à partir de combien?
Alors, concrètement, si vous vendez vos biens pour une valeur de plus de 5000 euros hors meubles, électroménagers ou automobiles, oui, il faudra le déclarer et vous serez alors soumis au régime, attention, d'imposition des plus-values de cession de biens meubles au taux de 19%.
Ah oui.
Et vous devrez vous acquitter de cet impôt dans le mois de la revente. Oui, le fisc est toujours là.
Ça paraît beaucoup. Oui, le fisc, oui, il y a des choses qui sont sûres dans la vie, la mort et les impôts. Et oui, dans 5000 euros, ça paraît énorme comme ça, mais en même temps, moi, je connais des experts de Vinted, du Bon Coin, etc., qui peuvent peut-être frôler cette somme qu'il faut donc déclarer. Merci beaucoup, Pierre Rondeau. On vous réécoute quand on veut, évidemment. Tiens, si vous n'avez pas le temps de faire tous les calculs, là, des dons, des pourcentages, vous réécoutez Pierre Rondeau quand vous voulez en podcast sur l'appli RMC. Il est 8h16.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et dans un instant sur RMC, une double peine fiscale. C'est ce que vous dénoncez, Anthony Brun. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous présidez l'Union Générale des Viticulteurs de Cognac. Des viticulteurs qui, lorsqu'ils sont victimes de vol, doivent quand même payer des dizaines de milliers d'euros de taxes sur des marchandises qui leur ont été volées. Vous témoignez tout de suite sur RMC.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Charles Magnin.
8h19, bon réveil sur RMC et RMC Story. On part tout de suite dans le sud-ouest où les producteurs de cognac doivent faire face à une double menace, celle des vols de leurs marchandises et celle des taxes sur les produits volés. Bonjour Anthony Brun.
Bonjour.
Vous présidez l'Union Générale des Viticulteurs de Cognac et vous alertez ce matin sur RMC. Lorsqu'un viticulteur de cognac se fait voler sa marchandise, il doit quand même payer des taxes dessus, c'est ça ?
C'est ça, et c'est pas valable uniquement pour les viticulteurs de cognac, c'est valable pour tous les acteurs des vins et spiritueux. Aujourd'hui, c'est une taxation qui s'applique quand on est victime d'un vol. On est obligé de payer les droits d'accise qui auraient été prélevés par l'État.
Oui, sauf que ces vols se sont multipliés ces derniers mois, ces dernières années. Il y a eu des exemples très concrets ces dernières semaines.
Sur ce dernier mois, on a eu des vols chez des viticulteurs directement dans les chais, des volumes très importants. On a eu des usurpations d'identité chez les transporteurs qui sont venus... avec des chauffeurs qui sont venus se faire passer pour les transporteurs, donc chez les négociants qui vendaient directement, des camions entiers qui ont été volés, et systématiquement, en plus d'avoir la perte de marchandises, on se retrouve avec la situation où les taxes sont réclamées, et quand sur nos catégories de produits, les taxes sont très importantes, ça peut représenter des montants qui dépassent les 100 000 euros sur des structures et qui les mettent directement en péril à ce moment-là.
Oui, des structures qui doivent donc payer des taxes sur des marchandises volées. Il faut expliquer l'objectif de cette règle, de ces taxes, c'est quoi ? C'est d'éviter les fraudes, d'éviter les bouteilles non déclarées, quoi.
Les taxations sur les alcools sont prévues, voilà, dans le cadre des mises sur le marché. Forcément, sur les vins, sur les bières, sur les alcools, elles sont plus élevées sur les alcools type cognac. C'est par rapport aux questions de santé et autres que ces taxes sont justifiées. Mais là, quand on a été victime d'un vol, elles sont aussi réclamées... à la personne qui a été volée. C'est ça qu'on trouve complètement illogique.
Les services des douanes interrogés par nos confrères de Sud-Ouest disent que c'est la règle européenne, c'est comme ça depuis 92, il n'y a pas de raison de changer la règle aujourd'hui, Anthony Brun.
Écoutez, il y a 10 ans, ce n'était pas considéré comme ça. Aujourd'hui, il s'appuie derrière une petite phrase qui dit au niveau de l'Union européenne, dans le cadre d'un cas de force majeure, la taxe peut être évitée. Si un vol n'est pas un cas de force majeure, je ne sais pas ce qui peut en être un.
Donc c'est ce que vous dénoncez, c'est le fisc, les douanes trop pointilleux, qui ne reconnaissent pas en tout cas le préjudice de ces producteurs de cognac. Vous avez eu des contacts avec les autorités là ces derniers jours ?
On échange régulièrement avec les autorités sur le sujet, et forcément dans un contexte économique plus compliqué, avec une recrudescence des vols, on a des situations de viticulteurs qui sont à deux doigts de mettre la clé sous la porte, parce que ces taxations sont réclamées. Il faut savoir que souvent les montants sont bien supérieurs à la valeur de l'osie que peut vendre le viticulteur. Donc à ce niveau-là, c'est des choses qui ne sont pas acceptables.
On va surveiller la réponse des autorités face à ces vols et donc cette double peine avec les taxes qui viennent ensuite s'y ajouter sur les marchandises volées. On verra la réponse des autorités. Merci Anthony Brun d'être venu alerter ce matin en direct sur RMC. Je rappelle que vous présidez l'Union Générale des Viticulteurs de Cognac. Merci encore une fois d'avoir été en direct à 8h22 sur RMC. C'est l'heure de retrouver Arnaud Demange. Vous le savez, Arnaud a pris quelques jours de repos. Mais en attendant, on retrouve le meilleur d'Arnaud Demange, tiens, qui est revenu sur des élections locales un peu particulières en Namibie.
Et oui, bonjour. Bonjour. Je suis un peu votre protoxyde d'azote du matin. On va rigoler. Ouais. Tiens, Apolline.
En moins dangereux.
En moins dangereux, ouais. Très bon pour la santé. Apolline, est-ce que vous voulez voyager ce matin ? J'ai envie de vous offrir un beau voyage.
Bien sûr.
Je vous emmène assister à une campagne électorale locale en Namibie, où le grand favori pour les élections du jour s'appelle... Adolf Hitler Unona.
Mais non.
Si, rien à voir, évidemment,
non,
rien à voir
sûr,
avec Jean-Michel Unona, qui est mon charcutier, dépend au fond. Le nom prête à confusion. Donc là, c'est Adolf Hitler Unona. Il s'appelle donc comme l'inventeur des marchés de Noël. C'est
ouais.
Arthur Chevalier qui expliquait ça tout à l'heure.
Référence à la très belle chronique d'Arthur.
Très belle chronique d'Arthur et ancien dictateur nazi. Le vrai Adolf Hitler doit être tellement fier qu'un noir africain porte son nom. Alors, en vrai, c'est pas son vrai nom. Son vrai nom, c'est Stéphane Plaza Unona, mais il a préféré changer pour pas être associé au bad buzz. Alors, Adolf Hitler Unona a expliqué « Je comprends pas très bien pourquoi mon père m'a appelé comme ça. Il a pas dû bien comprendre ce que représentait Hitler. » Ça veut dire qu'on peut entendre parler d'Hitler Vaguement. Sans bien comprendre ce que ça représente. Vaguement, ouais, vaguement. Non, mais c'est plus le peintre, en fait. Il faut dissocier l'homme de l'artiste au bout d'un moment. Donc, on souhaite une bonne et belle grande carrière politique à Adolf Hitler. Peut-être président de la Namibie un jour. Ce serait formidable, son premier voyage diplomatique en Israël. Qu'est-ce qu'on va se marrer. Le douanier, il va halluciner. Mais faut rigoler parce que l'actualité n'est pas drôle, Apolline. Non. Rendez-vous compte, François Hollande a été cambriolé.
Oui.
François Hollande et Julie Gayet, nos Brad Pitt et Angelina français à nous. Notre couple Grelamour, c'est nos Kennedy et Marilyn de chez Shein. Alors là où c'est con, c'est que sa résidence, comme celle de tous les anciens présidents, est surveillée par la police 24 heures sur 24, sauf que la présence des policiers gênait les voisins. Du coup, les policiers avaient été déplacés à 300 mètres de la maison.
Ouais.
Effectivement, c'est moins pratique surveiller ce qui se passe. Par contre, le voisin du bout de la rue, lui, il n'a pas été cambriolé. Comme quoi, c'est efficace. Qu'est-ce que tu veux piquer à François Hollande? Ses idées, pouf, ses fringues. Qui va voler les fringues de François Hollande? Xavier Bertrand, mais à part ça. Sinon, il y a la bouffe.
Tu veux le contenu?
Sinon, il y a la bouffe.
Ouais,
Hollande, il est rentré chez lui, il fait « Oh les salauds, ils ont volé le restant de pâté. » Non, non, chouchou, tu l'as mangé hier soir. Ah oui, c'est vrai. Pardon. C'est vrai. Alors, j'ai un copain caméraman qui m'a dit hier, je vous raconte une histoire vraie, hein, c'est une vraie anecdote. Il m'a dit, j'ai retourné un reportage chez François Hollande. Il y a quand même un truc précieux chez lui. Il a tous les départements sur le frigo.
Ah, il a mangé
les aimants, ouais, les aimants qu'il y a dans les cordons bleus, il a la collection complète, sachant qu'il y a 101 départements. Il a dû bouffer entre 2 et 3 000 cordons bleus, le pauvre. Mais ça valait le coup. Alors, est-ce que les bandits sont repartis avec la collection? Ou alors, plus vicieux, ils sont repartis juste avec le Loir-et-Cher. Ils ont pris un trou pour faire un trou au milieu de la carte. Hollande, il est rentré chez lui, il a fait « Oh non, non! Julie, recommande des cordons bleus !» Quelle abnégation pour rien. C'est ça, un président.
Arnaud, la chaîne info de la galaxie Bolloré, CNews, a lancé une déclinaison, ça s'appelle CNews Prime.
Oui, tous les cadres ont fait une réunion chez Vincent Bolloré qui a dit « On va lancer un nouveau CNews, un CNews 2, et je serai le maître du monde !» Mais en attendant, je vais me faire des crêpes. Bon, en vrai, il a réuni ses proches dans son manoir breton. Bon, Yann, Erwan, Gwenaël, encore Yann, Swazik, l'autre Yann, Yann numéro 3, vous êtes rassemblés parce que j'ai une idée. Si on lançait un nouveau CNews.
Super idée, patron. Qu'est-ce qu'on mettrait dedans? Des vraies infos?
Comment? Qu'est-ce que tu as dit, Yann? Insolent! Qu'on le jette dans l'oubliette des gauchistes! Il rejoindra Laurent Geoffrin. J'ai peur que chez Canal, ils déclinent la marque un peu trop, quoi. Dans 5 ans, on pourra zapper sur CNews Cinéma. Et ce soir, sur CNews Cinéma, un drame, celui d'un homme handicapé et vulnérable, pris en otage par un Malien sans papier. C'est Intouchable et c'est à 21h sur CNews Cinéma. Demain, vous retrouverez l'histoire réjouissante de deux guerriers médiévaux français qui chassent à grands coups d'épée les sarrasins qui infiltrent le service public. Ce sera Les Visiteurs sur CNews Cinéma. Et vendredi, Louis de Funès et Bourville dans le rôle de deux terroristes antipatriotes qui s'attaquent lâchement à nos amis allemands et au gouvernement légitime du glorieux maréchal qui a sauvé tant de juifs. C'est la grande vadrouille et c'est sur CNews Cinéma.
Arnaud Demange, qu'on retrouve à tout moment, évidemment, en podcast sur RMC, rmc.fr. Dans un instant, la météo, le journal de 8h30. Et puis ensuite, on va parler du plan grand froid déclenché dans une vingtaine de départements. Des températures négatives la nuit. Est-ce qu'on protège suffisamment les plus démunis? Le président de Médecins du Monde est avec nous en direct à 8h40 sur RMC. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Vous êtes bien sur RMC pour toute l'info, toute l'actu en direct. Votre journal présenté par Rachel Saadodine. Bonjour Rachel.
Bonjour Charles, bonjour à tous. Un sans domicile fixe est mort le soir du réveillon à Reims. Une vingtaine de départements déclenchent le plan grand froid pour éviter d'autres drames. L'otage français en Russie, Laurent Vinatier, sera-t-il bientôt libéré? Moscou dit en tout cas avoir fait une proposition à l'Elysée. Et puis, 3 Français sur 10 affirment ne pas avoir de soucis avec la revente de cadeaux de Noël. Un phénomène de plus en plus décomplexé selon la plateforme Rakuten.
Le plan grand froid a déclenché dans près de 20 départements du nord du pays.
Grand Est, Bretagne, Normandie, Hauts-de-France. Ce plan permet de débloquer de nouvelles places d'hébergement d'urgence pour les sans-domicile fixe qui souffrent des températures négatives. À Reims, un SDF de 35 ans est mort dans la rue dans la nuit de mercredi à jeudi. Et d'après le parquet, le froid serait bel et bien en cause. Un drame pour Zaya Nouri, c'est la fondatrice de la Maraude citoyenne rémoise et elle connaissait bien le disparu.
La tristesse, la colère, l'incompréhension. Est-ce qu'il a trop bu, il s'est endormi, il ne s'est pas réveillé? Je pense que le froid l'a achevé. Parce que le vent était glacial. Je pense qu'au niveau du ressenti, on devait avoir au moins du moins 5. Rester figé comme ça au sol, 24 décembre, tout seul. Il faut être costaud pour le supporter en restant dehors. Personne ne peut supporter ça. Et puis voilà, il n'a pas vu le froid arriver.
Un chauffeur activement recherché dans les Vosges après un refus d'obtempérer. Il a percuté deux gendarmes hier à Chavelot. Un acte délibéré d'après les informations de BFM TV. Le pronostic vital des gendarmes n'est pas engagé.
RMC 8h32, les agriculteurs encore mobilisés dans le sud-ouest.
Mais ailleurs, il ne reste plus beaucoup de blocages. 23 au total dans le pays contre 110 la semaine dernière. Les agriculteurs mobilisés contre la gestion de la dermatose nodulaire bovine. Ils ont notamment levé le camp à Tarascon-sur-Ariège et après plus de 10 jours de blocage, l'heure est au nettoyage et à l'évaluation des dégâts, Lou Garnier.
Presque comme si de rien n'était. 4 jours après la levée du blocage de Tarascon-sur-Ariège, tout a été nettoyé, mais il reste des traces. Émilie Barom est sous-préfète de l'arrondissement de Pamiers en Ariège.
Il y a des dégâts. Vous avez des panneaux arrachés, vous avez des voiries abîmées, voire brûlées.
Sans compter des déchets, notamment déversés devant la préfecture de l'Ariège par les agriculteurs dans la nuit de dimanche à lundi.
On est à plusieurs centaines de tonnes. On a des déchets qui contenaient notamment de l'amiante, des hydrocarbures, du tout venant béton, du bois, du fumier, des encombrants, des pneus. On est sur des coûts de plusieurs centaines de milliers d'euros.
Une facture salée que va devoir payer l'État. Christophe Goisé est éleveur bovin et porte-parole de la Confédération paysanne de l'Ariège. Il était sur le barrage, alors il reconnaît des dégradations, mais ne se sent pas responsable.
Quand vous poussez les gens à bout, il y a forcément des débordements. Donc moi, je remets la responsabilité intégralement sur les épaules de l'État. Si l'État avait suivi la voie de dialogue, il n'y aurait pas eu tout ça derrière.
Le barrage a été levé pour ne pas pénaliser les commerçants, selon lui, mais pas de trêve pour autant. Il l'affirme, de nouvelles actions sont possibles.
La famille de Laurent Vinatier espère sa libération pour les fêtes. La Russie annonce avoir fait une proposition à la France concernant le sort de ce chercheur français retenu depuis un an et demi, accusé d'espionnage. Et Thomas Becker, les proches de l'otage comptent maintenant sur une intervention d'Emmanuel Macron.
Oui, l'Élysée assure être pleinement mobilisée pour obtenir la libération de Laurent Vinatier. Il faut dire que l'ouverture inattendue du Kremlin hier fait souffler un vent d'optimisme.
C'est positif. Un vrai espoir cette fois.
La mère de Laurent Vinatier, Brigitte, imagine même une libération dans un futur proche.
Dans les jours à venir ou dans les semaines ou le mois à venir, ce serait déjà tellement merveilleux, je me vois déjà aller l'attendre sur le tarmac de l'aéroport et le voir descendre.
Un espoir d'autant plus fort qu'Emmanuel Macron, il y a quelques jours, estimait qu'il allait redevenir utile de parler à Vladimir Poutine. C'est tout ce qu'espère maître Frédéric Belot, avocat de la famille Vinatier.
Nous espérons que le président Macron arrivera avec le président Poutine à évoquer le cas de Laurent Vinatier et qu'une issue favorable sera trouvée.
Avec, selon lui, plusieurs options sur la table, l'abandon des poursuites judiciaires, un transfèrement sur le sol français ou une grâce présidentielle. Dans les trois cas, une intervention directe de Vladimir Poutine.
Vladimir Zelensky va rencontrer Donald Trump, c'est en tout cas ce qu'affirme le président ukrainien sur les réseaux sociaux ce matin. Pas de date pour le moment, mais Volodymyr Zelensky donc est formel. Beaucoup de choses peuvent être décidées avant le nouvel an, voilà ce qu'il écrit. Les États-Unis négocient avec l'Ukraine et la Russie pour tenter de mettre fin à la guerre. Les services de la Poste sont presque tous de nouveau opérationnels. Le groupe fait état d'un quasi-retour à la normale après la cyberattaque revendiquée par des hackers pro-russes lundi.
8h35 sur RMC et ce chiffre, près de 400 000 annonces de revente de cadeaux déjà déposées hier midi sur la plateforme Rakuten.
Et oui, à peine Noël passé, 3 Français sur 10 se disent prêts à revendre les présents qu'ils ont reçus. Une démarche de moins en moins taboue selon Thérèse Duhameau, directrice relations clients chez Rakuten.
On revend des produits culturels, livres, DVD, on revend des produits high-tech. C'est un geste de plus en plus décomplexé, de plus en plus accepté. La première motivation, c'est d'avoir du pouvoir d'achat, donc récupérer de l'argent. Mmh. En moyenne, les gens qui ont revendu leur cadeau de Noël en 2024 ont récupéré 100 euros. Mais certaines personnes ont récupéré plus que 300 euros. Donc c'est effectivement, c'est un budget important pour réinvestir dans quelque chose qui nous fait vraiment plaisir.
Alors que certains pensent déjà à la revente, d'autres ont encore des cadeaux à offrir et à recevoir. Si vous avez une famille élargie, recomposez. Vous savez ce que c'est que de fêter Noël jusqu'au 26, 27, 28, oh oui. N'est-ce pas Charles ?
29 mois.
29 même. Un véritable marathon des fêtes, Antonin Audion.
Parmi les marathoniens, il y a bien sûr les membres des familles recomposées comme Paul. Il enchaîne les repas de Noël.
Là, c'est mon troisième là actuellement. Père, mère et beau-père, donc trois familles, donc trois Noël.
Mounir vit les fêtes au pas de course. Il est venu voir sa mère à Tours avant de rendre visite à ses enfants à La Rochelle et à l'île de Ré.
Les familles sont dispersées et donc si on veut retrouver tout le monde, une année sur deux, les gens se regroupent. L'année d'après, bah, il faut aller chez les uns, chez les autres. Voilà. Bah, ça fait partie de la vie, c'est aussi, ça permet de voir du pays.
Une période qui n'est pas de tout repos pour Xavier, sorti courir entre les cadeaux et le repas.
On fait le tour de France pour voir toute la famille.
Et pourquoi vous vous sortez courir aujourd'hui?
C'est pour mieux manger ce midi. Voilà, c'est pour rester en forme et pour profiter.
Et qui dit marathon de Noël dit une pluie de cadeaux pour les enfants de Mathilde.
Bah, les cadeaux, on essaie de limiter pour pas qu'il y ait non plus une profusion, mais oui, il y en a beaucoup. Ouais. On demande aux personnes aussi de ne voilà, de pas faire trois cadeaux par enfant. Quoi.
Une course effrénée qui pourrait bien durer jusqu'au Nouvel An.
Un reportage RMC signé Antonin Audion.
Et un journal signé Rachel Saadodine. Merci beaucoup Rachel pour ce journal à 8h37 sur RMC. On part au 32-16, on va accueillir Anne-Jay qui nous appelle du Val-de-Marne. Bonjour Anne-Jay.
Bonjour, comment allez-vous Charles?
Ben moi ça va très bien, joyeux Noël à vous. Anne-Jay, on peut
joyeux
encore se souhaiter
Noël
le 26 décembre. Et puis d'autant qu'on fête Noël pendant encore plusieurs jours, on vient d'en parler dans les grandes familles. Mais ce qui vous fait réagir ce matin Anne-Jay, vous, c'est la question de la fréquentation du cinéma. On en a beaucoup parlé, année catastrophique pour le cinéma, pour les salles de cinéma en France. Il manque 25 millions de spectateurs par rapport à l'an dernier, beaucoup moins de places vendues. Est-ce que vous êtes beaucoup allé au cinéma cette année, Anne-Jay ?
Alors écoutez, cette année, pas vraiment, et les années précédentes également. Enfin, je vais beaucoup moins au cinéma. Alors déjà, j'y vais moins pour moi, parce que bon, en ce moment, je suis célibataire, donc déjà, y aller tout seul, c'est pas top.
Oh, ça peut, mais, ça se fait, hein.
Oui, ça se fait, mais moi, je suis pas fan. J'y suis allé peut-être quand il y avait le dernier Mario qui était sorti, parce que je suis un grand fan, donc j'y suis allé. Mais sinon, hormis ça, tout seul, non. Mais sinon, j'y vais avec mes enfants, tout simplement. Là, je suis allé voir Zootopie parce qu'il était sorti et que j'avais vu le premier avec la petite, elle était contente. Donc là, on est parti voir le deuxième. Et pareil, on est parti voir Dragon, qui était sorti également cette année. Mais honnêtement, après, j'ai pas vraiment de souvenir d'y être allé avant. Et ce qui me freine, je pense que c'est à peu près comme tout le monde. Il y a deux facteurs. Il y a le prix des places. C'est vrai que en moyenne, alors c'est vrai que la moyenne dit c'est 7,50, je crois, votre intervenant tout à l'heure.
Oui.
Mais moi de mon côté, je suis dans le Val-de-Marne, j'ai des UGC à côté, même un cinéma de quartier, c'est plus aux alentours des UGC, c'est plus 15, et peut-être le cinéma de quartier c'était 12-13, je trouve très cher.
Alors le chiffre de 7,50€, la moyenne des places, ça prend en compte les places, les tarifs réduits pour les enfants,
ça prend en compte
les CE, etc. où on peut avoir des places à tarifs réduits, mais ça reste cher, ça reste une sortie aussi quand on est en famille où faut souvent rajouter un pop-corn, une boisson, ça coûte, c'est une vraie sortie qui coûte cher, qui plombe le pouvoir d'achat. Et donc on y va, j'ai bien compris, Anne-Jay, uniquement pour les sorties événements, pour faire plaisir aux enfants, pour les gros films, mais de moins en moins régulièrement et encore moins seul, j'ai bien compris. Merci beaucoup Anne-Jay pour votre témoignage, ça nous éclaire. Ce matin, on a tous les types, on a ceux qui sont accros au cinéma, on a eu des abonnés tout à l'heure qui y vont quasiment toutes les semaines, et puis ceux qui reconnaissent comme vous Anne-Jay qu'ils y vont de moins en moins, qui attendent les grosses sorties pour une sortie en famille, une sortie événement. Merci beaucoup pour votre témoignage. Je vous continue à réagir évidemment à tout moment sur RMC au 32-16, il est 8h40. Et on passe au choix de la rédaction. Ce matin, on part sur les pistes de ski pour parler cigarettes. Et c'est avec vous Vincent Chevalier. Bonjour Vincent.
Bonjour Charles.
Depuis le 1er juillet dernier, l'interdiction de fumer, on le sait, s'est élargie à des nouveaux lieux publics, hein, les parcs et les jardins, près des écoles, sur les plages, on en a beaucoup parlé, mais ça concerne aussi désormais les pistes de ski. Un changement diversement accueilli par les skieurs que vous avez rencontrés, Vincent.
Et je vous emmène à Champs-Rousse, une station iséroise à quelques kilomètres de Grenoble, perchée à 1700 mètres d'altitude. Un grand soleil fait le bonheur des skieurs, fumeurs ou non. Ils voient souvent d'un bon œil cette nouvelle interdiction.
C'est quelque chose de plutôt bien, notamment sur les télésièges ou pendant une descente en ski. Je vois pas vraiment l'utilité de fumer sa cigarette.
Pour les pistes, pour l'écologie, et au moins on garde les pistes propres. Donc je trouve ça vraiment important et je trouve que c'est une bonne décision d'avoir fait ça.
Mais tous ne sont pas ravis. Florian, par exemple, avait l'habitude de faire une petite pause clope au milieu des pistes.
C'est quand même abusé quoi, c'est une... Ouais, on atteint un peu une liberté, on est sur un domaine, on est en plein air, on n'a plus le droit de fumer, c'est quand même dommage.
Il faut donc revoir ses habitudes, sous peine d'amende, 135 € en cas d'infraction, 250 € si récidive, un peu abusé selon Guillaume.
Faut pas non plus que ce soit genre la chasse à l'amende, etc. Après avoir commencé à appliquer aussi, est-ce que c'est du coup, les pisteurs qui mettent les amendes, je sais pas, les gens de la station.
Et ce sont bien les gendarmes en montagne qui sont chargés de vérifier la bonne application de la loi.
Mais Vincent, même avant cette loi, la cigarette n'était déjà pas forcément la bienvenue dans les stations de ski.
Effectivement, fumer était interdit à certains endroits. Christopher Hardy, le directeur de l'office de tourisme de Champs-Rousse, nous détaille les changements.
C'était déjà pas toléré dans les remontées mécaniques, dans les télécabines par exemple, dans les queues des remontées mécaniques. Là, c'est carrément interdiction de la cigarette sur le domaine d'exploitation, c'est-à-dire sur les pistes, sur les remontées mécaniques, même les télésièges, tire-fesses, dans les queues des remontées mécaniques.
Alors, quelques précisions, le vapotage reste autorisé, sauf dans les lieux clos, et pour la cigarette, elle est toujours tolérée soit sur les terrasses des restaurants d'altitude, soit en dehors du domaine de ski, sur les parkings par exemple. Une bonne nouvelle pour la santé publique, mais aussi pour l'environnement, selon Christopher Hardy.
On retrouvait beaucoup trop de mégots de cigarettes quand on a fait les nettoyages de fin de saison. On a retrouvé jusqu'à 1,6 kg de mégots l'année dernière en ramassant à la fin de la saison. Ça, c'est sous les télésièges ou autres.
Alors charge désormais, on l'a compris, aux stations de rappeler cette interdiction de fumer. Et pour ça, Vincent, l'association France Montagne met à disposition une campagne de communication.
Allongez votre espérance de ski, clope de fin, on vous tend des perches pour arrêter. L'association mise sur l'humour avec des petites phrases choc. Vous devriez les voir dans pas mal de stations cet hiver. Vincent Jay, médaillé olympique de biathlon et désormais directeur général de France Montagne.
Oui, le sujet est important. Important à double titre. Un, parce que ça s'intègre dans un plan Génération sans tabac. Mais aussi parce que, on le sait que en bas des remontées mécaniques, il y a quand même ces mégots restent plus de 10 ans dans la nature quand ils ne sont pas ramassés. Ça pollue. C'est 500 litres d'eau, un mégot. On a utilisé le ton un petit peu de l'humour, du décalé, pour que le message passe aussi mieux, ou en tout cas soit plus absorbable par les clients et les touristes qui venaient dans nos stations, dans nos vallées.
Les mégots, toujours la première source de déchets en montagne. L'année dernière, 58 600 mégots ramassés lors d'une opération spéciale par Mountain Riders. L'association s'est fixé un objectif, zéro déchet sauvage en montagne d'ici 2030.
Merci beaucoup Vincent Chevalier, correspondant RMC dans la région lyonnaise. Le choix de la rédaction à retrouver, à réécouter quand vous voulez évidemment en podcast sur l'appli RMC. Il est 8h43.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Le froid s'est installé partout en France et le froid tue. Nouvelle illustration lors de la nuit du réveillon avec ce SDF de 35 ans retrouvé mort dans la rue à Reims. D'ailleurs, le plan grand froid a été déclenché dans une vingtaine de départements. Bonjour Jean-François Corti.
Bonjour.
Vous êtes le président de Médecins du Monde. Est-ce que ces mesures, ce plan grand froid est suffisant? Est-ce qu'on en fait assez pour protéger les plus démunis face au froid notamment? Je vous pose toutes les questions dans un instant sur RMC.
RMC. Jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Charles Magnin.
9h moins le quart. Vous êtes bien sur RMC à la radio, RMC Story, à la télé, le canal 23 de la TNT. On va tout de suite parler du froid qui s'est installé sur une large partie du pays. Un froid dont souffrent particulièrement les plus précaires. Bonjour Jean-François Corti.
Bonjour.
Médecin, président de Médecins du Monde. Le plan grand froid a été déclenché dans une vingtaine de départements. Ce qui veut dire concrètement davantage de places d'hébergement, des maraudes renforcées. Est-ce que c'est suffisant Jean-François Corti?
Écoutez, les chiffres sont parlants et nous font comprendre l'urgence de la situation. Je vais rappeler le constat, c'est près de 350 000 personnes qui vivent dans la rue chaque année. C'est 4 millions de personnes qui sont mal logées. Et de fait, depuis 10 ans, c'est une augmentation de 150%. Donc on est dans une situation extrêmement grave et c'est près de 900 morts chaque année dans la rue. Donc aujourd'hui, cette annonce, elle confirme le fait que les places et les dispositifs classiques sont insuffisants. De notre point de vue, ils devraient être ouverts toute l'année parce que je rappelle que on meurt autant dans la rue en hiver qu'en été. Et donc, ces dispositifs qui vont, on l'espère, s'ouvrir en plus grand nombre, des gymnases, plus de moyens pour le 115 notamment, les dispositifs d'appel et les plateformes, en fait, ce nombre devrait être la norme durant toute l'année. Cette augmentation de places aujourd'hui, elle est
insuffisante. On attend que les températures baissent pour enfin ouvrir les places dont on aurait besoin le reste de l'année ?
Oui, en fait, ce qu'on constate sur nos interventions, et Médecins du Monde, c'est près d'une trentaine de projets en France, c'est qu'il y a de plus en plus de familles, de femmes et d'enfants dans la rue. C'est aussi une augmentation des mortalités, comme je l'évoquais tout à l'heure. Et puis aussi, c'est aussi des patients, des malades qui ont des maladies chroniques, qui sont de plus en plus difficiles à suivre dans la rue. Lorsque vous avez un cancer, que vous avez une maladie parfois en stade terminal, et c'est bien de ce genre de contexte que je parle, eh bien, avoir un suivi adapté n'est pas possible lorsque vous êtes dans la rue ou lorsque vous êtes dans des centres d'accueil qui ne sont pas spécialisés et qui ne correspondent pas à vos problèmes, notamment de santé. Donc, il y a une urgence à faire en sorte que ces dispositifs d'accueil y répondent davantage en termes de nombre aux personnes qui sont dans la rue. Et je vous l'ai évoqué, hein, c'est quand même près de 60-70% en général de refus de propositions de mise à l'abri lorsqu'on appelle le 115 pendant toute l'année.
Le 115 est saturé.
C'est saturé.
Aujourd'hui, pour le dire concrètement, un SDF, un sans-abri qui vit dans la rue, doit appeler dès le matin, dès 6h, 8h du matin, le 115, pour avoir espéré avoir une chance, un hébergement le soir même.
Ouais, alors juste déjà, en termes de représentation du SDF, parce que c'est important de l'avoir en tête,
bien sûr.
On n'est plus sur le profil d'un homme de 30 à 40 ans, en rupture sociale ou professionnelle, tel qu'on pouvait l'imaginer dans les années 80-90. Aujourd'hui, vous avez toujours ces profils-là, mais vous avez énormément de familles, de femmes seules, de femmes et d'enfants, et vous avez aussi beaucoup de mineurs, notamment ce qu'on appelle les mineurs non accompagnés. Donc, ce sont des gens qui sont extrêmement vulnérables et exposés aux violences de la rue qui tuent. Et ce que l'on constate, encore une fois, dans les programmes de Médecins du Monde, entre autres, c'est qu'on n'arrive pas à transférer ces personnes lorsqu'on les voit dans la rue, en maraude par exemple, lorsqu'on fait des maraudes, c'est-à-dire qu'on va dans les squats, on va dans la rue avec des bénévoles, des salariés, des équipes qui vont leur apporter les premiers soins, on n'arrive pas à trouver des solutions. Et donc ça renvoie au constat assez clair que les dispositifs d'accueil ils sont insuffisants et puis ils ne sont pas adaptés aussi. Quand je dis ils ne sont pas adaptés, c'est qu'ils ne correspondent pas à la diversité des profils des gens qui sont dans la rue, entre des familles, des femmes seules, des enfants, des malades. Vous pouvez pas proposer le même dispositif, sinon ça ne marche pas. Donc voilà, l'urgence, elle est là. Un nombre de cas dans la rue monstrueux, des morts par centaines, et un État qui, on va dire, s'agite un peu lorsqu'il fait froid, alors que les mortalités sont présentes toute l'année.
Et justement, il y a la question des sans-abri, mais plus largement la question de la pauvreté, de la précarité qui gagne du terrain en France. Et le gouvernement a annoncé en septembre un objectif à 10 ans de réduction de la pauvreté. Ça, c'était des grandes annonces. Où est-ce qu'on en est ? Vous avez eu des nouvelles depuis septembre ? Est-ce qu'il y a des grandes actions mobilisées au-delà, comme vous le dites, des plans grand froid, des actions temporaires ? Est-ce qu'il y a une vision à long terme pour répondre à la question de la pauvreté ?
Alors aujourd'hui, c'est 15% de la population française qui vit sous le seuil de pauvreté. C'est plus de 10 millions de personnes. Et effectivement, Monsieur Macron, notamment, il y a quelques années, avait rappelé qu'il n'y aurait plus personne à la rue, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc on peut considérer que c'est un échec. Mais c'est un échec des politiques des différents gouvernements depuis 20 ans, de droite, de gauche, comme de l'en même temps, qui ne mettent pas assez les moyens dans la lutte contre les inégalités, il me semble. Et puis, pour revenir sur ce que vous évoquez, on l'a vu lors du débat sur le programme de loi de finances, le projet de loi de finances, la sécurité sociale, il y a une tendance qui, moi, me désole de beaucoup de nos élus qui considèrent que, notamment sur la question du système de santé qui est en souffrance, je vous l'apprends pas, eh bien, ce n'est pas le retrait de l'État dans le fait de soutenir la sécurité sociale qui est un problème, mais ce sont les patients. On pointe du doigt des abus, des patients qui seraient dans une situation de faire n'importe quoi.
Et on nous dit qu'il y a trop d'arrêts maladie, trop de médicaments.
Oui, ce qui a amené dans les débats la possibilité, notamment notamment de remettre en question l'aide médicale d'État, mais ça c'est assez classique, hein, avec les migrants qui sont les boucs émissaires de tous nos problèmes, c'est le fait de taxer les franchises médicales. Alors c'est pas passé, mais on voit dans l'esprit ce que ça veut dire. C'est remettre en question des affections longue durée, c'est-à-dire considérer qu'il y a des Français qui abusent de ces dispositifs. Et d'une manière générale, on le sait, ça va être l'augmentation des forfaits et des mutuelles. Et donc, ce que l'on constate depuis de nombreuses années, qui de notre point de vue à Médecins du Monde est problématique, c'est qu'il y a une privatisation, une financiarisation du champ de la santé, avec un marché qui est largement ouvert pour les mutuelles qui sont payantes. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Ça accentue les inégalités. Ça veut dire que les Français, aujourd'hui, ont ce qu'on appelle un reste à charge, qu'ils doivent payer pour leurs soins, qui est de plus en plus important. Et donc, aujourd'hui, ce qu'on voit dans nos consultations aussi, c'est des patients qui retardent leurs soins, qui les diffèrent. C'est des personnes âgées, c'est plus de 500 000 qui sont précaires. C'est des étudiants qui n'arrivent pas à se soigner. Et donc, aujourd'hui, pour pouvoir lutter contre ces inégalités, c'est pas en privatisant, en financiarisation de la santé, c'est en renforçant une certaine vision d'État social, et on en est loin aujourd'hui.
Mais qu'est-ce qui ne fonctionne pas, Jean-François Corti? Parce qu'on entend aussi souvent les mêmes politiques dénoncer l'assistanat, les aides sociales qui n'inciteraient pas à retourner bosser. Qu'est-ce qui est cassé dans le modèle français? Parce que c'est aussi Emmanuel Macron qui dénonçait il y a quelques années un pognon de dingue qui serait déversé. Donc visiblement, la France serait très généreuse, dépenserait beaucoup, et pourtant la pauvreté progresse. Où est-ce que c'est cassé? Sur quel levier il faudrait activer pour répondre à la question de la pauvreté à l'heure où les politiques disent on dépense trop, justement?
Oui, alors ce qui explique que le tout gratuit s'est terminé, on l'a entendu, c'est faux. Enfin, on sait très bien que tous les Français, vous et moi, on cotise pour pouvoir avoir accès à un système de santé, et donc rien n'est gratuit chez nous. Simplement, ce qui est aujourd'hui bousculé, c'est une certaine idée de la solidarité que portait le Conseil National de la Résistance, celui qui a créé la Sécurité sociale le lendemain de la Seconde Guerre mondiale, et qui rappelait que... les plus précaires paieraient comme ils peuvent, cotiseraient comme ils peuvent, et tout le monde serait soigné au même niveau, y compris les plus riches. Parce qu'on sait très bien qu'il y a un problème de santé publique, en tout cas un principe qu'il faut respecter, c'est que plus les inégalités de santé sont importantes, plus l'état global de la santé d'une société sera mauvais. Donc on a tout intérêt à faire en sorte que les inégalités contre la santé soient combattues. Et aujourd'hui, les discours qui considèrent, qui disent que les Français abusent, qu'il y a l'assistanat et autres, ce n'est simplement qu'un moyen de déconstruire l'état social, c'est de faire la promotion d'une certaine vision d'un ultralibéralisme qui, de notre point de vue, est mauvais dans la lutte contre les inégalités et ne met pas la focale sur les problématiques de fond que sont le fait que les mutuelles sont de plus en plus chères, que le retard de recours aux soins n'est pas souvent évoqué dans la bouche des politiques que vous évoquez, alors que c'est une réalité qui fait que lorsque les patients consultent, souvent c'est trop tard, ça engage leur pronostic vital, c'est des coûts plus importants pour la société. Donc, non, nous défendons l'idée qu'il faut un état social plus fort, qu'il faut plus de moyens dans les hôpitaux, évidemment, dans les centres de santé, mais qu'il faut surtout arrêter ce discours stigmatisant de nos concitoyens qui ne sont pas là pour abuser d'un système de santé. Il faut leur faire confiance aussi.
J'aimerais qu'on termine avec une éclaircie, Jean-François Corti, dans ce tableau que vous dépeignez, c'est que les Français sont généreux. Le total des dons aux associations de la part des particuliers et des entreprises progresse tous les ans. Ça représente combien? C'est vital pour une ONG comme Médecins du Monde aujourd'hui, les dons des particuliers?
Oui, absolument. Notre budget, il est à moitié lié aux dons de nos concitoyens. Et on est dans un contexte où, de manière plus globale, les financements des États, ce qu'on appelle l'aide publique au développement, notamment des Européens, est en train de baisser drastiquement. Et donc, les dons sont vitaux. Ils nous permettent de faire des opérations en France, à l'international, dans une trentaine de pays, de manière indépendante, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'attendre des financements étatiques pour pouvoir développer nos opérations en toute indépendance et pour pouvoir faire ce qu'on appelle du plaidoyer, ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire défendre les droits fondamentaux, la lutte contre les inégalités. Donc c'est l'occasion, et merci de me donner l'occasion de remercier nos près de 400 000 donateurs en France qui nous permettent de faire des opérations indépendantes. Voilà, continuez à nous donner, c'est la garantie d'actions concrètes sur le terrain pour soutenir nos concitoyens.
C'est aussi la bonne date. Là, on approche du 31 décembre pour rappeler qu'un don inférieur à 1 000 euros est défiscalisé à 75% auprès de Médecins du Monde ou de toute autre ONG ou association. Merci Jean-François Corti, président de Médecins du Monde, d'avoir été notre invité ce matin en direct sur RMC. Dans un instant, le journal de 9h, la météo, et juste après, eh bien, c'est le meilleur des GG. Mais oui, Alain Marchal, Olivier Truchot et le meilleur des grandes gueules tout de suite en direct sur RMC.
RMC, Apolline Matin.